convaincre, qui doit être très difficile avec des gens qui ne sont pas convaincus du végétarisme, enfin de l'antispécisme, parce que en fait on a quand même énormément besoin de repères, et c'est vrai que s'il n'y a pas le repère religieux chez les gens, il y a au moins ce repère de nature, de chercher toujours à... Sinon on est un peu perdu. Enfin, je parle pas pour moi, enfin, ça commence à aller mieux, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose, juste comme tu parlais de modèles ou de repères, alors on le trouve où on veut, mais en effet la nature, l'idée de nature en fait partie, elle est malléable à souhait, en effet. Mais c'est vrai que c'est un argumentaire où il faut être, je pense, vraiment calé pour pouvoir se défendre de cette espèce de couloir comme ça qui se resserre et qui empêche de sortir des clivages. Connaître quoi ? Il faut connaître quoi ? La bio ? Il faut connaître notamment, par exemple, pouvoir dire ah ben on a des canines, ouais mais le gorille aussi a des canines. Parce que c'est des choses qu'on entend tout le temps, et c'est des raisonnements que moi j'ai aussi. De me poser parfois la question.
Justement, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances précises, par exemple en bio, c'est que justement l'argument ça va être de dire, mais qu'on ait des canines ou pas, qu'on ait un intestin long ou pas, que je sais pas quoi d'autre encore là, peu importe, c'est pas la question. On sait qu'on peut arrêter de manger de la viande, qu'il n'y a aucun problème là-dessus, c'est ça qui importe. Et le reste, c'est une question sans fondement, enfin sans intérêt.
Les hommes vivaient de façon naturelle, à partir de quand finit la nature et à partir de quand commence la culture, tu vois, les hommes de la préhistoire, quand ils vivaient de façon naturelle, ça veut dire quoi?
L'idée c'est qu'on a quand même évolué par rapport à la nature et qu'entre temps, l'évolution a pu être positive sur certains points. Et puis aussi, la question, le chat a bien été une bactérie au départ. Donc il n'a pas toujours mangé de la viande. Est-ce que le problème de la nature c'est pas au moment où il a mangé un morceau de viande, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il a profané la nature et que depuis tout part en couille et c'est depuis que le lion bouffe la gazelle et qu'on est en, qu'il y a des guerres et c'est comme ça.
Je n'ai pas du tout compris le discours, mais je vais un peu fermé. La nature, pour moi, c'est comme une venue au milieu de la figure. La nature existe, l'homme est un élément de la nature. Si l'homme est arrivé sur Terre ou dans l'univers, c'est parce qu'à l'instant donné, il y a eu quand même des phénomènes, je ne sais pas si ça le hasard ou ce que tu veux, mais qui ont fait que l'être humain a pu se développer. Avant lui, c'était sûrement des êtres unicellulaires, etc. Qui ont conduit au final quoi, à l'homme. Quoi. Et l'homme n'est qu'un élément. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si la nature t'enlève l'air, par exemple, l'homme n'existe plus. Et si t'as pas d'eau, l'homme n'existe plus. Je veux dire,
que j'ai enlevé la nature, mais pas la réalité. C'est-à-dire que j'enlève la nature, mais tout le reste reste. C'est-à-dire l'air reste.
L'air, c'est la réalité.
Je veux dire, la réalité, elle est là. Quoi. Pour vivre avec des mains, il faut respirer. Quoi. C'est les données de base, je crois. Intestin entre 7 mètres, 8 mètres, je sais pas, mais bon, en effet, effectivement, d'une certaine façon, pourquoi on marche sur deux pattes alors que c'est que nos ancêtres peuvent marcher sur quatre pattes, etc. Enfin, c'est l'évolution qui se fait. C'est vrai que l'homme veut toujours chercher à comprendre, c'est pas toujours le meilleur, le plus fort. Et en fait, l'idée, c'est qu'il se place au centre de l'univers. Qu'il soit détient l'intelligence, etc. Mais finalement, je crois qu'il est, en fait, il est tout petit dans l'univers, on le voit par rapport à certains animaux, justement, on le voit. Certains animaux, le dauphin ou d'autres, où on voit que finalement, le dauphin a des possibilités immenses de communication, etc. Donc je veux dire que l'homme est un petit élément, bon, je veux dire, raisonner par rapport à ça, ça me paraît un peu ambitieux, voire prétentieux, je ne sais pas comment on peut qualifier. Alors quand tu dis est-ce que c'est juste, quand tu disais le terme juste, par rapport à ce que tu disais juste, est-ce que c'est juste de manger des animaux ou pas avec ça? Le terme juste, qu'est-ce qu'il veut dire? On ne veut rien dire, c'est un terme défini par l'homme. Juste en quel sens? Juste pour l'homme, juste pour l'animal, juste pour l'environnement naturel, juste pour pourquoi juste? C'est déjà...
À partir du moment où on parle, on utilise des mots, ils sont définis par nous. Mais on arrête de parler si on considère que ça ne veut rien dire parce que c'est défini par nous.
Non, c'est pas ce que ça veut rien dire, non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que... un terme de définition, un terme de vocabulaire, mais c'est difficile.
Il faut qu'on ait une discussion sur l'éthique. Non, mais moi je pense à un sens.
C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ont, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Ce que je veux dire par rapport à la nature. La nature, nous, on est un élément, donc quelque part, tu es obligé de raisonner. Si tu n'as pas le soleil, tu ne vas pas vivre, ça c'est clair. Hein. Si tu n'as pas de l'air, tu n'es même plus là. C'est pas sûr. Si tu n'as pas le soleil, tu n'existes plus. Il n'y a plus aucune vie sur Terre. Si tu n'as pas le soleil, tu n'as pas la synthèse chlorophyllienne, tu veux dire. Si tu n'as pas le soleil, tu ne vis plus.
Qu'on ne développera pas des gènes qui nous protègent
les gènes naturels.
Dans l'état actuel des connaissances, je veux dire qu'on n'est pas capable, ben, sauf évolution peut-être sur quelques milliards d'années, mais ben, je veux dire, sans soleil aujourd'hui, tu ne vis pas. Quoi. C'est pas possible. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien.
Les gens qui ont développé la maladie de sida, certains ont été séropositifs et sont redevenus séronégatifs. Il faudrait qu'en peut-être en une seule vie, sans qu'il y ait besoin de. Plusieurs générations, on peut évoluer, s'adapter, changer sa nature.
La nature est beau. Je suis d'accord avec toi.
Mais il y a le paramètre de temps.
Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais par hasard, j'ai emporté avec moi un texte sur Spinoza qui était dans le Monde interactif il y a quelques jours, où qu'est-ce qu'il dit Spinoza? Il dit l'homme fait partie de la nature, et c'est vrai que pour ça, au XVIIe siècle, il s'était renvoyé de partout parce que c'était monstrueux de l'homme. C'est-à-dire que l'homme faisait partie de la nature, donc il a vécu seul, mais enfin avec cette idée-là. Et puis d'un autre côté, pour revenir sur ce qu'a dit donc Élie, qui disait oui, on est mieux qu'à l'époque des cavernes. Certes, on est mieux qu'à l'époque des cavernes, mais moi je viens de lire donc ce livre, Les Confessions d'un primate, du d'un éthologue juventin, qui raconte que les pygmées, il y a quelque temps, ils n'étaient pas du tout civilisés, qu'ils avaient une civilisation que lui trouvait magnifique. C'est vrai qu'ils étaient chasseurs, cueilleurs, donc quand même ils étaient viandistes, mais enfin bon, sauf ça. Ils ne détruisaient des choses que quand ils avaient faim. Et comme ils étaient nomades, ils ne pouvaient rien emporter, donc ils n'avaient aucune richesse, rien, sinon la nourriture du jour. Que femmes et hommes étaient totalement à égalité parce que ils avaient des tâches, etc. Et qu'ils ne pouvaient pas écrire ni apprendre, découvrir l'écriture, etc. parce que tout pourrissait avec la chaleur, donc ils n'avaient pas pu avoir de papier, etc. Ce qui n'empêchait qu'ils n'avaient jamais vu un peuple aussi heureux, aussi gai. Et ils étaient tout le temps en train de rire. Et paraît-il qu'ils avaient par contre une musique polyphonique, qui est justement ces musiques qui sont un peu l'expression de la nature même, quoi. C'est-à-dire aussi immense et aussi grand que la nature, qui était quelque chose de remarquable. Donc eux, ils ressentaient profondément la nature. Et dès qu'ils se sont fait un peu coloniser par les Bantous qui leur ont appris la civilisation, ils sont tombés malades, il y a eu des meurtres, il y a eu des... Donc ça, c'est un scientifique qui raconte ça dans un livre qui est très intéressant, professeur d'art primate. Et donc la nature, c'est quand même peut-être pas si mal si on sait bien l'utiliser. C'est comme tout, hein, tout est à bien ou mal utiliser. Ça peut être bien, ça peut être mal, selon l'éthique de la personne. Qui est utilisée.
Souvent, j'ai l'impression qu'on utilise le mot, enfin, le mot nature comme d'autres utilisent le mot humain, c'est-à-dire qu'en rattachant à humain tout ce qui peut être positif dans les valeurs, c'est-à-dire qu'un comportement humain ou faire quelque chose, être humain, c'est l'esprit de fraternité, etc. C'est-à-dire que Hitler, par exemple, il est inhumain. Quoi. Alors que ça rime à quoi de dire que Hitler est inhumain, quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et la nature, c'est un peu utilisé de la même façon. C'est-à-dire qu'on met d'emblée, on colle d'emblée sur la nature plein de choses positives. Et c'est un cercle qui se mord la queue après. Et après, une fois qu'on a collé ces valeurs positives-là, on dit la nature, c'est bien. Mais on l'a défini d'emblée comme quelque chose qui était un modèle à suivre, etc. Donc après, ça, on modèle un peu comme on veut. Et vraiment, l'utilisation de ce qui est ça, c'est humain, c'est inhumain. C'est pas ce qu'on utilise nous, hein, mais en général, on rencontre souvent ces expressions-là dans la société, à la radio, tout ça, tout ce qui est humain, c'est rattaché à des valeurs positives. Mais c'est un a priori, on pose déjà ça, et après, on va discuter. Donc par rapport à ce qu'il dit, la nature, c'est vraiment donné comme une référence dans nos sociétés, et souvent quand on a des discussions, tout ça, quelque chose auquel je n'adhère pas, comme un modèle prescriptif, un modèle à suivre, à un niveau éthique. C'est-à-dire la nature, c'est quelque chose qu'on doit suivre en ayant rattaché à la nature plein de choses. Alors la nature, soit on la définit de deux façons. Habituellement, soit on la définit comme ce que dit Yves, c'est-à-dire que c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est la nature, c'est égal ce qui existe. Donc on peut se poser les questions d'utiliser un autre mot que la réalité, pourquoi pas continuer à utiliser le mot réalité plutôt que le mot nature. Et si on prend cette définition-là, une fourmilière est aussi naturelle qu'une centrale nucléaire, etc. Ce qui n'est pas naturel, ça va être une licorne ou une sirène. Je ne parle pas de l'idée de la licorne ou de la sirène, mais une sirène, ça ne va pas être naturel, ça n'existe pas. Une licorne, ça n'existe pas, c'est pas naturel, donc ça n'existe pas. Et par contre, une centrale nucléaire, ça existe, donc c'est naturel. Une fourmilière, ça existe, c'est naturel. Le sida, ça existe, c'est naturel, etc., etc. Soit on définit la nature comme ceci, et donc considérer la nature comme un modèle à suivre. Donc comme un modèle éthique, ça se casse la gueule, quoi. Ça veut dire que tout ce qui existe est bien et tout ce qui n'existe pas est pas bien. Mais je ne veux pas une éthique qui repose là-dessus, ça ne correspond pas à grand-chose. Soit on définit la nature comme ce qui est en dehors de l'humain ou ce qui n'a pas été touché par l'être humain. Alors ça voudrait dire que les comités d'éthique, il faudrait qu'ils soient constitués d'archéologues, c'est-à-dire définis par des gens qui sachent nous décrire ce qu'était le monde avant l'apparition de l'espèce humaine, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un kilomètre carré qui n'est pas sous pouvoir de l'espèce humaine. Et si on se penche 30 secondes sur ce phénomène-là, ça veut dire qu'avant l'espèce humaine, les archéologues donc, ils nous apprennent qu'il y a eu des cataclysmes, etc., etc., il y a la souffrance avant l'espèce humaine, etc. Ça veut dire qu'on considère donc la nature comme un modèle à suivre. Ces archéologues là qui nous décrivent un monde sans être humain ou avant l'être humain, avant l'apparition de l'être humain. Donc ça serait le monde qu'il faut qu'on suive. S'il n'y a pas tellement d'autres définitions que la nature, soit on considère que c'est ce qui existe, soit on considère que c'est ce qui n'est pas humain. Quoi. Et donc si on se penche sur 30 secondes ce que c'est que le monde, même en dehors des êtres humains, moi c'est pas. Je ne fais pas le constat que c'est forcément un modèle que j'aimerais. J'aimerais qu'il soit réalisé même dans les utopies, quoi, un monde meilleur. Quoi. C'est-à-dire qu'avant l'être humain, je ne considère pas que le monde en dehors de l'être humain, que le monde est un havre de paix, un paradis, etc. C'est un monde qui n'a pas d'éthique en fait. C'est un monde qui n'a pas de finalité, à savoir il n'y a pas de comité de scientifiques éthiques ou je sais pas quoi. Il y a ce qui existe, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal, des fois un individu sur un individu animal, disons avant l'espèce humaine, pour se nourrir, il faut qu'il fasse souffrir d'autres animaux, des fois il mange de l'herbe, donc des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal, etc. Mais je vois pas en quoi ce modèle-là serait un modèle à suivre plus que et je ne vois pas une autre voie qui définisse en réalité ce que c'est que la nature.
Oui,
je crois qu'il y a pas mal de confusion un peu partout, ce qui fait qu'on parle de choses et on ne sait même plus de quoi on parle. Et ce qui fait qu'on peut faire dire à l'autre à peu près ce qu'on veut, notamment quand on parle de nature, je veux dire, effectivement, la nature telle qu'elle a été définie, c'est pas telle qu'elle est en réalité, c'est telle que l'homme la voit, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est des schémas théoriques qui ont été créés par l'homme, qui ont été inventés par lui, et qu'il essaye de faire appliquer dans la pratique. Alors effectivement, bon, il applique ses propres théories, ce qui ne veut pas dire que la nature, c'est soit la théorie de l'homme. Ça veut simplement dire que l'homme invente un certain nombre de théories qu'il met après en pratique. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand tu dis par exemple que la nature n'a pas d'ordre, alors je vais prendre un exemple scientifique auquel tout le monde peut se référer. C'est un scientifique qui a écrit un bouquin qui s'appelle La puissance de l'univers de David Bohm. C'est un physicien très très connu en anglais. Et justement, lui, il part de la théorie que justement la nature a un ordre et qui est même extrêmement bien organisé, et qu'il donc il prouve justement dans ses livres cette théorie par la pratique, justement. C'est-à-dire qu'il le démontre, y compris scientifiquement, y compris par certaines analyses et expériences. Par exemple, il part d'un point dans un liquide, il fait tourner ce liquide de différentes façons, ce qui fait que ce point devient, se malaxe avec ce liquide, et après justement il arrive à faire revenir tout ce liquide à un point, ce qui paraît normalement impossible. Et lui il démontre que c'est justement plus possible. Et il parle de ça en disant qu'en fait l'ordre de la nature, c'est ce qu'il appelle un ordre implié. C'est-à-dire que en toute chose, il y a déjà la programmation pour une évolution future. C'est ce qu'on a, c'est ce que le monde, depuis qu'il existe, montre. C'est-à-dire que l'univers évolue sans arrêt et se développe de plus en plus. Donc, dans l'ordre implié, ça veut dire qu'à partir d'un point, justement, bon, par exemple, la théorie du Big Bang, elle provient exactement de cette idée-là. C'est-à-dire qu'à partir d'un point, tu peux créer un univers. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur de ce point, il y a déjà tous les éléments potentiels qui fondent l'univers futur. Alors, justement, donc ça prouve que l'univers, contrairement à ce que tu dis, n'est pas le fruit du hasard, mais est complètement, je veux dire, organisé. Et que tout ce que fait l'homme, justement, c'est d'introduire des désorganisations qui provoquent, effectivement, bon, l'état de la planète actuellement. Je veux dire, ça crève les yeux que c'est l'action de l'homme.
Et avant,
alors, l'humanité, d'où elle vient ?
Avant, mais de la nature aussi. Donc,
c'est-à-dire
avant l'espèce humaine.
Avant l'espèce humaine.
C'est celui qui désorganise.
Pour moi, l'espèce humaine est immortelle. Alors,
non, mais il y a un mot, elle n'existait pas.
Si je dis que l'homme est universel et immortel, ça prouve que de tout temps, il a existé, sous une forme ou sous un autre. Donc, par exemple, effectivement, bon, ça implique les notions de réincarnation et autres. Je ne sais pas si on va rentrer dans ce genre de débat aujourd'hui. Mais en tous les cas, ça implique que la nature, elle est bien, bel et bien organisée. Et que, à partir du moment où tu modifies, et c'est là on en revient à l'histoire de l'OGM, quand tu dis que, par exemple, à la limite, l'OGM, c'est uniquement un problème politique, moi, ça me semble grave. Alors, je ne dis pas, je suis tout à fait d'accord que les OGM, il y a une dimension politique. On est archi d'accord là-dessus. Mais dire qu'il n'y a pas une autre dimension qui est tout simplement la manipulation génétique avec tout ce qu'elle implique sur le fonctionnement de l'être humain et des dégénérescences que ça entraîne, ça c'est beaucoup plus grave. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu... Je veux dire, il n'y a plus de respect de rien. À ce moment-là, tu justifies à peu près n'importe quelle manipulation par qui que ce soit sur justement l'être humain.
Est-ce qu'on laisse Yves répondre, même si ce n'est pas son tour, quand il est quand même que c'est quand même.
Alors je voulais juste terminer en disant par l'histoire du soleil quand même. Parce que tout bêtement, une plante, si tu enlèves le soleil, ben elle meurt. C'est bête à dire, mais il y en a plus.
Donc Yves, si tu veux répondre. Ou sinon,
ah non, j'ai pas écouté.
Mais tu veux répondre,
mais j'ai pas entendu.
Ah,
on est ravis de la main, sinon avant.
Non, non, mais il y a beaucoup de gens avant. Alors à ce moment-là, c'est lui. Qui? Sauf si tu veux répondre.
Non, mais il peut pas.
Bon, alors Hugues.
Je crois qu'il y a une confusion, c'est-à-dire qu'on ne parle pas trop de la nature en tant que le soleil, enfin, la mer ou l'air, quoi. C'est pas ça. On peut appeler ça nature, on peut appeler ça comme on veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire on refuse l'idée de nature, alors on va enlever le soleil. Quoi. Enfin, il ne faut pas arrêter. C'est une idée de nature, en fait. Enfin, c'est vraiment lié à une idée de tradition. Quoi. C'est-à-dire qu'on se sert de l'idée de la nature pour justifier des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on dit que c'est naturel d'être hétérosexuel, comme on pourrait dire que c'est traditionnel. Enfin, en fait, ça sert à justifier des choses qui n'ont aucune justification, en fait. Et justement, on invente des théories, comme la nature, comme la tradition, pour faire tenir des choses qui ne tiennent pas seules. C'est-à-dire pourquoi ce serait plus naturel de faire l'amour pour se reproduire ou pour le plaisir, enfin, parce que je prends cet exemple-là comme un autre. Mais et justement, du coup, on invente la tradition ou on invente la nature. Et du coup, d'un seul coup, ça tient la route parce qu'on a inventé une justification. Et moi, je pense que c'est de cette idée de nature-là qu'on parle. C'est-à-dire d'une idée de nature inventée par l'homme pour permettre de définir des volontés humaines, en fait.
Ah oui, c'est une idée de nature qui n'est pas naturelle, c'est ça que je veux dire.
Ouais, en quelque sorte. Je sais pas, c'est pas...
C'est
parce que c'est vrai que le monde fonctionne sans l'homme, c'est-à-dire il y a le soleil, il y a les plantes, la chlorophylle, etc. C'est pas cette idée de nature-là dont on parle, enfin je pense.
Laurent.
Je voulais parler des chats végétariens. Parce que... Ouais, moi j'en ai deux. Et donc souvent on nous dit que c'est pas naturel. Et puis en fait les chats ils s'en foutent. Du moment qu'ils mangent, qu'ils aiment ce qu'ils mangent. Et que en fait bon, ce qui compte comme disait Yves, en fait, c'est de se demander quelles sont les conséquences par rapport aux autres. Quoi. De ne pas donner de viande à ces chats, ça évite de tuer d'autres animaux. Après, leur nature ou pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, comme il l'a dit hier, un chat qui est élevé avec une souris, à sa naissance, il ne tue pas les souris, quoi, parce qu'il est élevé avec. Alors la nature du chat, c'est tuer des animaux, je pense. De toute façon, pour moi, ce n'est pas une valeur, la nature. C'est pas quelque chose que je sacralise. Donc ça m'est égal de savoir si... En fait, c'est plus une histoire scientifique, c'est-à-dire de savoir si statistiquement, effectivement, les chats, en général, oui, ils mangent d'autres animaux. Bon, oui, mais alors, pour moi, ça n'a pas de valeur plus que ça, quoi. Enfin, plus qu'une valeur statistique, quoi. Mais ça n'a pas de valeur éthique. Au niveau éthique, si on s'interroge sur les conséquences, c'est clair qu'il faut nourrir le chat végétarien. Parce que ça fait tuer un animal, quoi. Donc, voilà, c'était pour dire.
Je vois pas ce
qu'il y a
de naturel de...
Parce qu'on nous reproche souvent de... C'est pas naturel de nourrir les chats végétariens, parce que normalement, ils doivent manger des animaux.
Parce que c'est des gens qui ne savent pas ce que veut dire être...
Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on observe que les chats, statistiquement, mangent d'autres animaux dans 99% des cas, et de là, ils en font quelque chose qui sacralise, quoi. De là, ils en font une valeur, en fait. C'est comme une divinité, quoi, en fait. C'est-à-dire que, ah bah oui, c'est sacré, ça doit être comme ça. Donc, il ne faut pas remettre ça en question. Alors que, si
si, c'est si. Comme tu dis la tradition, mais la tradition c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est justement on doit dépasser la tradition puisqu'on est dans un monde évolutif. La tradition c'est que faut essayer de vivre la vie.
Voilà, mais c'est seulement.
Et tout est, enfin, tout est, la vie pour moi c'est quelque chose qui vit. Donc un chat qui mange de la viande, après si on est végétarien, pourquoi pas, je veux dire, je vois pas ce que la nature a à faire avec
mais
ça.
Si, parce que la prédation, ça fait partie des phénomènes qu'on qualifie naturels.
Mais donc,
on dit la prédation, c'est naturel, donc ouais. ça a quelque chose de sacré.
C'est peut-être pas naturel, mais je pense à Goethe, excusez-moi, qui dit que l'homme est fait d'ombre et de lumière, il y a une partie d'ombre et de lumière, de la nature c'est pareil, il y a des choses, il y a de la prédation dans la nature, il y a de la prédation sur l'homme. La nature, et il y a la prédation dans l'homme, mais il y a aussi un côté positif, et on peut faire marcher soit l'un soit l'autre, soit dans la ligne, sans dire qu'il y en a un qui est naturel, qui est pas naturel. Il y a peut-être un choix, peut-être qu'on a la possibilité d'un choix, ou il y a une évolution, je sais pas.
Bon, enfin voilà, donc pour les chats, c'était tout. Pour, par rapport à ce que Denis a dit là sur l'évolution, quoi. Enfin, moi je pense que l'évolution c'est le fruit du hasard, le plus pur. Et qu'il n'y a pas de finalité là-dedans. C'est-à-dire que l'humain, il est là, mais il pourrait très bien ne pas être là. Il pourra très bien disparaître. Enfin, c'est le résultat de tas de circonstances très compliquées qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas mettre en équation parce qu'il y en a trop, c'est trop compliqué. Mais que c'est pas. Qu'il n'y a pas de finalité divine là-dedans. Ou autre. Enfin, moi je pense qu'on ne peut pas être scientifique et croire en l'utilité.
C'est bien des scientifiques.
Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce que je veux dire, toutes les théories actuelles, enfin, la théorie de Darwin, c'est la plus solide. Il n'y en a pas une qui arrive à décrire aussi bien tout ce qu'on observe et tout ce qu'on découvre. Il n'y en a pas une seule qui décrit aussi bien tout ce qui s'est passé. Donc, c'est ça vraiment la plus solide.
Ah oui, moi c'est vrai que moi pour ce qui est de Dieu, pas Dieu, etc., la finalité, je peux rien dire parce que je ne sais pas rien. Mais ce qui m'avait frappé dans les conférences que j'avais entendues l'année dernière, c'était quand même l'horloge de ce qui se passe sur la Terre où on avait. Comparé sur 24 heures la vie des dinosaures qui avait commencé à 0 heure, qui avait fini à 21h50 par les cataclysmes, etc., la disparition des espèces. Et par rapport à cette horloge, l'homme était né à minuit moins 2 secondes, et puis il en était à 2 secondes d'existence par rapport aux dinosaures. Alors ça met quand même un peu l'homme à sa place, il a 2 secondes d'existence sur 15h ou 16h pour les dinosaures. Quoi. Donc je pense que l'homme. Est-ce que c'est le fruit du hasard, j'en sais rien, mais enfin, bon, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Par rapport, je te refais un rapport comme ça. Ça m'avait frappé parce que je me disais, bah oui, en effet, on ne sait pas grand-chose et puis on croit qu'on sait tout, une fois de plus. Et on sait peut-être même que les dinosaures qui ont vécu plus longtemps.
Alors moi, ce que j'aurais ajouté, c'est ce qui me gêne depuis le plus dans ce débat, c'est qu'on parle de la nature depuis le début, mais moi, je ne l'ai jamais vue et j'attends qu'on la montre.
Salut.
Où est la nature?
Elle est là, donc,
on parle tant. Là, je vois un cèpe, là, je vois une table, là-bas, je vois une plante, derrière, il y a un oiseau, mais je ne vois pas de nature. Je vois une planète, c'est la Lune. Enfin, là, on ne la voit pas.
On ne peut pas comparer une table avec une plante. On ne peut pas. C'est une chose, comme tout à l'heure, c'est Sébastien qui comparait une centrale nucléaire, je crois, je ne sais pas quoi, il disait que c'était naturel, ça n'a rien à voir.
C'est
la même
chose.
C'est la
nature,
c'est pas la question.
Si
la nature
change,
on parle de
la
nature comme on parle de Dieu.
C'est-à-dire, tout le monde parle pas en même temps. Pour moi, nature égale vie. C'est égal à la vie. C'est évident, c'est naturel.
Alors la mort, ce serait pas naturel.
Comment?
La mort, ce serait pas naturel.
Une fois que t'es mort. Si ta vie est finie, puis c'est tout.
Bon, bah, donc, si la mort et la vie sont naturelles, à quoi bon tout est naturel, la vie est naturelle.
La nature, c'est tout ce qui nous entoure, c'est une définition, il faut bien l'appeler quelque part, parce que ça ne s'appellerait pas la nature.
Mais moi, monde, je peux appeler ça le dépôt de chambre. Tout ce qui nous entoure, c'est le dépôt
de chambre. Oui, mais si tu dis dépôt de chambre, il y a des gens qui ne comprendront pas.
Ouais, moi, je ne comprends pas quand on parle de nature. Puisque
et quand tu parles de vin, tu sais ce que c'est. Pourquoi tu peux donner un mot au mot à ce que c'est que le vin, et tu ne peux pas donner un mot à ce que c'est que l'univers.
L'univers, il y a un mot pour ça, c'est l'univers.
Oui, ben la nature, c'est... Il y a un mot pour la nature.
La nature, c'est la seule chose qu'on parle, mais qu'on ne montre jamais.
Non, mais après, là, c'est... Ah.
Alors, David...
Ben, je voulais juste dire un sentiment, hein, c'est plus un sentiment qu'une affirmation.
Mais c'est un sentiment naturel ou pas?
Ça dépend si tu considères comme naturel tout ce qui existe, dans ce cas-là, oui. Mais je veux dire, j'en ai justement rien à foutre de savoir si c'est naturel. Je veux dire, je le dis aussi parce que c'est un sentiment qui est un minimum énervé.
C'est quoi?
Non, mais je veux dire qu'il y a des gens ici, je ne veux pas faire des catégories naturelles ou pas naturelles, mais bon, il y a des gens qui comprennent à peu près ce que c'est le discours antinaturaliste en étant à peu près d'accord avec ou pas, mais je veux dire, bon, qui consiste à dire, ben, il y a peut-être la possibilité de critiquer, de dire, ben, on n'est pas d'accord avec un certain schéma de pensée qui est un schéma de pensée qu'on trouve partout. En face de ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, et moi j'aurais le sentiment de dire que vous faites semblant de ne pas comprendre. Ou alors que vous ne faites pas l'effort de comprendre, même en restant pas d'accord avec nous. Mais je veux dire que il y a un point de vue qui consiste à dire, qui est le nôtre, qui est celui d'Yves, qui est celui exprimé par Sébastien, et qui est aussi le mien, et d'autres personnes ici, qui est de dire... que de savoir s'il y a un ordre ou qu'il n'y a pas un ordre, on s'en fiche de savoir s'il y a un ordre. Que toi, Didier, que tu dises qu'il y a un ordre, bon, c'est, si toi tu considères que le fait qu'il y a un ordre dans l'univers, c'est une chose avec laquelle peut-être je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, même s'il y a un ordre dans l'univers comme tu le décris, notre position, elle est de dire que cet ordre ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on critique. On dit que l'éthique, c'est quelque chose d'indépendant de toute idée de nature,
ah ben ça c'est clair,
d'une divinité, d'un ordre, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est compris? Je veux dire... Non, vous n'allez pas nous répliquer qu'il y a le soleil qui existe. Je veux dire, c'est, d'une certaine façon, j'ai l'impression que vous faites semblant de ne pas comprendre ce qu'on dit.
Bah, l'ordre, en fait, de dire,
dans ce cas, pourquoi est-ce que tu y tiens tant à dire qu'il y a une nature? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à dire non, il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce qui est juste, il faut regarder le grand tout qui est autour de nous. Bien sûr qu'on sait qu'il y a un grand tout autour de nous. Et bien les termes, Sébastien a essayé de les définir en disant la nature, eh bien, soit on le définit comme étant le grand tout autour de nous. Dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi on dirait que tout ce qui existe est bon. Puisque de toute façon, tout ce qui existe, la réalité, et ben la réalité, ça sera toujours la réalité. Je veux dire, quelles que soient les saloperies qu'on fasse, elles seront dans la réalité. Donc on ne peut pas dire que la réalité est forcément bonne. Ça nous est d'aucun secours quand il s'agit de décider ce qu'on veut faire. On dit simplement qu'il y a un point de vue qui est spécifiquement éthique, qui est de décider ce qu'on doit faire, indépendamment de savoir quel est l'ordre préétabli des choses. Et par contre, si on dit que la nature, et ben c'est quelque chose qui est avant l'être humain, eh ben on est mal barré, à part décider qu'il faut que l'être humain disparaisse ou qu'on fasse semblant le plus possible de ne pas être des êtres humains, qu'on se mette à marcher à quatre pattes, effectivement. Et... Bon, je veux dire que...
Mais tu ne peux pas te dire que la nature est à mal de jeunesse.
Parce que la nature de l'être humain...
Que la nature, on se fiche de savoir si la nature...
Tu viens de dire ça, que la nature est à mal de jeunesse.
On se fiche de savoir ça. Je veux dire que...
Tu viens de dire, c'est n'importe quoi.
Et ben moi ça m'importe pas. Moi ça m'importe pas de savoir si c'était naturel, pas naturel, de définir le terme. Je pense qu'effectivement il y a un terme qui est la réalité, que ce terme-là il suffit, et que chaque fois qu'on utilise le terme la nature est comme ci et comme ça, que l'être humain est naturellement fait pour pas manger de la viande, par contre les chats sont naturellement faits pour manger de la viande, et ben on est en train de raconter n'importe quoi. Alors on peut-être dire ça a une justification dans le cadre de certaines images. Religieuses en particulier, mais pas forcément seulement religieuses, qui diraient qu'il y a certains ordres qui existent dans le monde qui constitueraient notre, nos devoirs, qui nous donneraient notre éthique. Mais dans ce cas-là, il faut discuter de ça. Est-ce que le fait que, par exemple, pour prendre l'exemple le plus clair, est-ce que le fait que Dieu, ça lui plaise qu'on mange de la viande, ça implique qu'il faut manger de la viande, parce que ça c'est, je veux dire, c'est un truc qui est utilisé aux États-Unis, que j'ai vu sur plein de sites web, c'est moitié ironique, mais c'est les gens qui défendent le fait de bouffer de la viande, qui disent si Dieu n'avait pas voulu qu'on bouffe de la viande, ils n'auraient pas fait les animaux en viande. Bon, je veux dire, eh ben oui, je veux dire, la nature, on peut dire que les animaux sont faits naturellement de viande, donc c'est fait pour... on peut chercher des passages dans la Bible. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que même s'il y a un Dieu qui existe, ben, il faudra encore m'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que je lui fasse plaisir plutôt que de faire plaisir aux cochons. Eh ben oui.
Et est-ce qu'il faut manger l'homme parce qu'il est fait de viande aussi?
Eh ben, écoute, je viens d'expliquer, Dominique, oui, donc, que je me fiche de savoir s'il est fait de viande ou pas de viande.
Ah bon, je comprends pas, c'est ça qui fait.
On comprend pas. Oui, mais vous ne comprenez pas, mais vous vous énervez quand on essaie d'expliquer notre point de vue, et j'ai le sentiment que vous ne voulez pas.
David, moi je vais te dire.
Non, je suis désolé. Déjà, hier soir, sur la question de la tradition, tu t'es énervé.
Sur quoi?
Sur la question du fait que la corrida soit traditionnelle, ce qui est quelque chose de.
Mais la nature, elle est bonne et elle est mauvaise. Ouais, ça, personne n'a jamais dit que la nature était bonne et était juste.
Le discours de Seb de dire que les centrales nucléaires sont naturelles, je veux dire, je comprends pas comment tu peux ne pas comprendre ce qu'il est en train de raconter.
Je comprends pas, non.
Eh ben oui, tu peux pas le comprendre. C'est, pour toi, c'est un crime de lèse. C'est un crime de lèse nature. Eh ben, je suis désolé. Ben, nous, notre opinion, c'est que cette nature-là, on n'a pas à la respecter. Ton opinion, c'est qu'il faut la respecter. Essayons de nous parler au lieu que tu dises que c'est incompréhensible. C'est pas incompréhensible.
Quelque chose,
bon, j'ai fini.
C'est un Pascal. Mais bon, je voudrais juste dire juste une petite chose. C'est peut-être David qui font quand même un petit. Cette idée, elle est tellement présente partout qu'il faut peut-être juste un petit temps d'adaptation quand on l'entend pour la première fois. Il y a peut-être ça aussi. Pascal.
Donc, merci de ton intervention, David, je pense, parce que ça recentre un petit peu les choses. Parce que c'est vrai qu'on peut discuter pendant des heures de l'idée de nature, etc., et qu'on peut tous les définitions différentes. Concrètement, par rapport à ça, justement, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas encore prêts. Plus fort. À dire, mon chien. Je vais lui donner autre chose que... je vais empêcher, par exemple, mon chat de chasser une souris. C'est un truc que j'ai très envie de faire parce que, par compassion, je dis « Non, tu veux pas la petite souris ?» Et j'ai envie d'empêcher le chat de le faire. Et puis en même temps, il y a une autre force qui me dit « Ben si, laisse-le faire, c'est la nature. » Voilà. Parce que quand je suis pas là, c'est ce qui se passe. C'est que si on va jusqu'au bout, ça veut dire que toute la chaîne de la prédation... je m'érigerais en... Si j'en avais le pouvoir, je dirais non, je supprime la chaîne de la prédation et là, je suis perdue. C'est-à-dire que j'aurais envie de ça, mais je ne peux pas l'argumenter, je me suis dépassée par ça. Donc l'idée de nature, de justification par la nature, j'en suis victime. Enfin, je ne peux pas m'en dépêtrer. Quoi. Pour l'homme, c'est autre chose.
Moi, je respire. On peut reconnaître, d'après moi, que la nature est un équilibre, dans un sens, où effectivement c'est un cycle, la partie inférieure du cycle est utilisée surtout en haut, mais il y a quand même un équilibre, il y a quand même quelque chose qui peut tout d'un coup être déséquilibré et on ne sait pas ce que ça va donner. Ça, on peut le reconnaître. Je vais évoluer de cette idée. Alors déséquilibre sur Terre par exemple, déjà on peut en voir plusieurs, on peut voir que la faune en Afrique est très différente de celle en Europe, est très différente de celle en Asie, il y a plein comme ça plein d'équilibres différents. Il y en a certains qui sont par exemple si on va en Afrique, on voit que la vie est très difficile pour ceux qui habitent, il y a plein de moustiques, tout ça, c'est en plus il y a des paysages qui sont déserts où il n'y a plus rien qui pousse, l'équilibre est quand même si on dit que c'est la nature. C'est peut-être pas la meilleure des natures. Si on va en Europe, on dira, voilà, là par contre, il n'y a pas d'animaux venimeux, il y a peut-être moins de proies qui souffrent d'être attrapées par des prédateurs, peut-être. Si on va en Asie, on verra peut-être encore mieux. Je pense à la Chine avec des petites vallées sympas avec de l'eau qui coule, des plein d'arbres en fleurs et peut-être encore moins de prédateurs. Donc une autre idée encore de la nature qui sera encore mieux. Moi, mon idée derrière ça, mais c'est est-ce que tout en essayant de maintenir l'idée d'équilibre, qui est dans la nature, justement, justement faire évoluer cet équilibre pour que ça devienne un monde de plus en plus joli. On ne sait jamais, peut-être que le panda avant, peut-être que le panda était un mangeur de viande, quand il a été répertorié, on a dit, bah, le panda c'est un mangeur de viande, on s'est gouré, il mangeait que des bambous. Peut-être que, j'en sais rien, on ne connaît pas tout à fait l'histoire du monde, et peut-être qu'il y a 10 000 ans, les Chinois ont eu la même réflexion, ils se sont mis à la table, ils se sont dit on va faire évoluer l'idée de nature. Ils avaient à l'époque des ours qui dévoraient les humains, qui étaient comme les pandas, ils se sont dit bon bah toi tu manges un peu du bambou, et ça a marché. Et ça a réussi comme ça, mais au lieu de le faire avec la logique actuelle, effectivement, de détérioration, où on n'a pas de vision d'ensemble, où on n'essaie pas de recréer un équilibre, bah, si on essaie de le faire avec conscience et en leur disant, vous voyez, on peut faire passer la nature à un stade de, peut-être plus évolué, je veux dire, peut-être qu'on peut réussir quelque chose de bien, quoi. C'est une idée.
Claire.
Je voulais juste te dire, le mot nature, ça englobe tellement de concepts et je comprends que Clément soit choqué quand Seb fait la comparaison centrale nucléaire je crois qu'il faut beaucoup de temps pour intégrer certaines choses, quoi. Je crois que c'est toi qui as dit la nature est bien organisée. Bon, on l'a déjà dit, mais je veux dire que c'est pas bien organisé quand tu lis le bouquin de Clem, Dame Nature et Mité. Je veux dire, quand tu vois par exemple une fille qui crève les yeux d'un lapin, tu te dis merde, il y a quelque chose qui va pas dans cette nature-là, quoi. C'est pas bien organisé parce que la nature elle est cruelle, tu vois. Je sais pas, quoi. Et donc, tout ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que la nature, pour vous, elle n'existe pas, quoi? C'est ça que vous voulez dire, c'est ça?
Oui, on ne devrait pas utiliser de mots. Quelques mots correspondent à rien. L'univers, c'est notre bien.
Mais on peut convenir que la nature existe. Enfin, pour certains d'entre nous, on peut penser que la nature existe, mais que le critère nature n'est pas pertinent. Que ce critère-là, on n'en veut pas pour...
Voilà. Oui, c'est une question qui correspond en fait que moi et d'autres disons. Je veux dire, moi, à partir de ce moment-là, même si on n'est pas d'accord, je suis d'accord qu'on discute, mais simplement, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait preuve de trésor de pédagogie et qu'en face, il y a des murs. Bon.
Non, moi simplement, je suis un petit peu perdue, un petit peu confuse maintenant. Bon, je sais pas si ce que je dirais, ça apporte quoi que ce soit, mais enfin bref. Je sais pas, je pensais juste, je suis assez d'accord avec certains trucs qui ont été dits, comme toi tu viens de dire, bon, le mal est dans la nature, il y a de la cruauté dans la nature, et je pense que c'est fondamentalement vrai, même chez l'humain. Et simplement, pour moi, ce qui m'apparaît quand vous dites manger de la viande, c'est naturel, je comprends que ça, c'est une idée qu'on s'est faite pour se rassurer d'en manger. C'est une espèce de construction, enfin plus ou moins, même si on l'a constaté chez les animaux entre eux, ils se mangent entre eux, bon, des choses comme ça, mais c'est pas forcément ça qui devrait justifier certains comportements. C'est pas parce qu'on a l'impression que c'est naturel qu'on doit le faire. Et quand tu parlais d'harmonisation, de trouver un meilleur équilibre, effectivement, peut-être avant, on ne sait pas ce qui se passait, peut-être tout le monde était végétarien, ou il y avait un mélange comme maintenant, on n'en sait rien. Donc on ne peut pas... C'est des théories, je suis d'accord, manger de la viande, c'est naturel. Mais moi, je voudrais ramener un petit peu, moi, ce qui m'apparaît, c'est l'idée, j'aimerais bien qu'on débatte un petit peu de l'idée du mal, parce que le mal, c'est naturel, finalement, qu'on ramène ça à l'idée d'éthique, parce que il y a des certaines maximes qu'on peut ramener, c'est manger de la viande, c'est naturel, manger de la viande, c'est faire souffrir, est-ce que faire souffrir, c'est naturel? Enfin, des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait un petit peu... Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que moi-même, là, maintenant, je suis un petit peu dans la confusion. Mais je veux dire, bon, c'est un petit peu... Est-ce que quand on dirait à des gens qui mangent de la viande, faire souffrir, pour toi, c'est naturel? Comment ils réagiraient? Bah, c'est, en prenant cette espèce d'équation, manger de la viande, c'est naturel, faire souffrir, c'est manger de la viande. Donc, est-ce que... Voilà, est-ce que... Faire souffrir, c'est naturel aussi, voilà. Je sais pas, ça me vient comme ça, parce que pour moi, l'idée de nature, bon, même si on a différentes définitions, j'aimerais qu'on ramène vraiment à l'idée d'éthique, parce que c'est ça C'est ça le truc, quoi.
J'avais justement parlé tout à l'heure de schéma théorique créé par l'homme, et ce que tu dis, ça y correspond justement tout à fait. C'est-à-dire, tu dis ça c'est la nature et ça c'est pas la nature, c'est toi qui le décides. Je veux dire. Personne va te contredire. Personne va te contredire. Pourquoi ? Parce que c'est un schéma théorique qui vaut ce qu'il vaut et tout le monde peut le faire et on peut faire le tour de la table. Chacun peut dire ça c'est la nature, ça c'est pas la nature. C'est toi qui l'as décidé. Ce qui n'empêche que quand je dis qu'il y a un ordre, par exemple, dans la nature, ça veut dire que la nature est régie par des lois universelles. Et que ces lois, tu peux les gommer, tu peux les mettre de côté, etc. Tu peux les transgresser. Et ça, on va revenir par rapport à la souffrance. Alors oui, l'homme peut transgresser les lois. C'est du reste qu'il a fait depuis la nuit des temps, et c'est du reste pour ça qu'il en est à l'état où il en est maintenant. Mais, donc, plutôt que parler de nature, on peut parler aussi d'énergie. Parce que alors là, ça devient beaucoup plus clair. C'est-à-dire que tout est énergie. Si on prend une table et qu'on la voit à un microscope extrêmement puissant, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de table. Que c'est uniquement de l'énergie agglomérée. Bon, et tout comme ça. Et l'homme pareil, du reste. Et du reste, pourquoi ? On le voit, du reste, quand tu dis que ça n'a pas d'incidence, moi je vais prendre un exemple très simple, celui de la médecine. Les Chinois ont compris depuis 3000 ans que et les Tibétains ou autres ont compris que l'homme il était nourri par l'énergie, par l'énergie du soleil principalement, et que si tu retires cette énergie dans l'homme, si il y a un blocage d'énergie, et ben l'homme devient malade. Du reste, ça peut être aussi bien physique que mental. Et à partir de ça, tu t'aperçois que cette énergie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, comme le dit Dominique, c'est la vie. C'est-à-dire que, effectivement, à partir du moment où il n'y a plus d'énergie, que ce soit dans une plante, dans un animal ou dans l'homme, il n'y a plus d'individu, il se transforme. C'est-à-dire que cette énergie, elle se transforme en autre chose. Bon, ce qui veut dire que justement l'homme est fonction d'un cycle et que ce cycle il peut l'influencer justement par son comportement. Et que quand tu parles de est-ce que l'homme doit être dans la souffrance, pas être dans la souffrance, faire souffrir, pas faire souffrir, etc., ça dépend, c'est ce que je te dis, c'est une création de l'homme, c'est-à-dire que ça dépend strictement de lui. S'il respecte les choses, c'est-à-dire cette énergie, justement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il devra s'inscrire dans le mouvement de l'univers. Ça, je te dis, les Chinois, ils l'avaient compris depuis longtemps. Parce que plus tu es en dehors des lois, plus tu vas interagir contre cette énergie, et donc plus tu vas, ton corps va s'opposer à cette énergie et va créer des blocages. Du reste, c'est très simple. Tu vis dans une cave toute ta vie, et tu vis de façon naturelle au soleil en mangeant correctement, tu vas voir la différence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un coin, tu as respecté la loi de l'univers qui est justement cette forme énergétique, et de l'autre, tu ne la respectes pas, libre à toi. Je veux dire, personne ne va t'en tenir rigueur. Tout le monde a le droit de vivre dans sa cave et faire ce qu'il veut. Mais ça veut dire, à ce moment-là, ça dépend de l'homme. Et par rapport à l'animal, c'est exactement pareil. Le respect de l'animal et le respect de l'homme, c'est la même chose. Tu ne peux pas respecter l'animal si tu ne respectes pas l'homme, et inversement, si tu ne respectes pas justement cet équilibre justement universel. Et à partir du moment où tu s'opposes à ça, eh ben évidemment, il y a des milliards de gens qui s'opposent à ça. Mais je veux dire, après, tu en vois les effets justement sur le globe, sur l'univers. C'est-à-dire que la glaciation disparaît, etc., etc., jusqu'au moment où l'homme lui-même, l'homme enfin en tant qu'être humain, disparaîtra. Mais ça, je veux dire, nous, ce qu'on a à voir justement, c'est qu'en tant qu'homme, on a une réflexion qui nous permet justement de corriger nos erreurs. parce que effectivement, l'homme, pendant des générations et des générations, a vécu justement suivant des schémas qui étaient faux. Mais libre à nous de modifier ces schémas, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, ces schémas peuvent parfaitement être modifiés, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dans un mouvement de défense des animaux, de respecter les animaux, de respecter justement une certaine éthique, etc. Bon, enfin, je ne vais pas intervenir pour l'instant.
Oui, donc moi ce que je voulais revenir, c'est donc on a mis la nature en première place, mais moi ce que je trouve qui est en première place dans ton argumentation, c'est la mauvaise foi de l'homme qui dit c'est la nature, c'est pas la nature, ou le manque de réflexion. Parce que s'il dit par exemple l'être humain, moi j'ai entendu on est dans la chaîne alimentaire, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience qu'il y avait des végétariens qui s'en sortaient très bien, des végétaliens, c'est-à-dire c'est simplement il veut apporter un argument, il trouve n'importe quel motif, c'est la nature, ou alors il y a beaucoup de faux motifs comme ça. Ah, c'est comme ça parce que moi j'ai quelqu'un chez nous qui dit ah, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Alors que moi j'avais entendu justement une émission d'un Américain, j'avais 20 ans quand j'ai entendu ça, qui a dit en France on dit c'est comme ça parce que c'est comme ça, aux États-Unis on dit bah, si c'est comme ça on va faire autrement. Et donc si on dit la nature elle est comme ça maintenant, mais on va la changer. Moi, je trouve que c'est comme ça que je considère la nature. Elle est comme ça, on va la changer. Quoi, t'as la ligne. On la changera, on la changera pas, mais tout change. Tout est immanent, impermanent. C'est dans le bouddhisme, tout est impermanent, tout est changement. Donc, il y a toutes les philosophies, quelles qu'elles soient, disent que la nature, elle change tout le temps. Donc, ça, si elle change tout le temps, ça veut dire qu'on peut la changer aussi, peut-être. Et les gens qui prennent comme définition la nature, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est des abrutis. Donc c'est pas parce que la nature, ce qu'il faut mettre en cause, c'est les gens et pas la nature, parce que ça n'a pas de sens de dire la nature est comme ça. D'autre part, pour ce qui est de la tradition, moi ça fait une dizaine d'années, même pas 5 ans, j'entends de donner, si comme à la nature on lui donne le sens de défense de certains droits, depuis 5-6 ans, notamment avec la corrida, on dit c'est la tradition et on trouve qu'on doit respecter la tradition. Mais c'est l'homme devient fou, jamais on a respecté les traditions. Justement, le propre de l'homme, c'est de les changer. Donc, c'est des gens qui, pour pouvoir, par malhonnêteté, disent c'est comme ça parce que c'est la tradition, c'est comme ça que c'est parce que c'est la nature, mais c'est parce qu'ils usurpent le mot de nature et qu'ils usurpent le mot de tradition. Point. La tradition, c'est bon, ça peut être joli, encore que bon, la tradition, c'est un petit mot comique. D'ailleurs, qu'avant, quand on disait la tradition, ça voulait dire que c'était des gens qui restaient sur leur acquis, qui ne changeaient pas, qui étaient un peu ébréchés mentalement. Et tout d'un coup, ça devient un mot, la tradition, c'est magnifique. Et alors la tradition, c'est le contraire de l'évolution. Enfin bon, là il y a une. Oui, alors ce que je reproche donc à ce que tu dis, c'est ce mélange de vocabulaire, de définition de langage, qui en fait, il n'y a qu'une chose, c'est la mauvaise foi de l'homme quand il veut continuer à être cruel ou à profiter de certaines choses ou à détourner la loi, ou en fait disons pas la loi, mais disons être menteur, voleur, etc. Alors ça on peut évidemment dire nous on le fait parce que c'est la nature, nous on le fait parce que c'est ceci. Ben c'est faux, c'est tout, mais c'est pas la nature qui est en cause, c'est l'éthique de l'homme, l'authenticité de sa parole. C'est pas la nature qui est en cause. Et que la nature, elle est bien, elle est mal, mais tout le monde le sait depuis l'Antiquité. Quand on voit les séismes, on ne peut pas dire que la nature est bien. Je veux dire que tout le monde sait que la nature, elle est. En plus, elle est beaucoup plus complexe que ça, elle est pas mal et bien, c'est un ensemble de toutes sortes d'évolutions, c'est quelque chose qui fourmille, c'est pas simplement le bien ou le mal, ni le bien et le mal, c'est toutes sortes de choses dans tous les sens, donc on peut pas la prendre comme référence pour dire la nature c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà.
Sébastien.
Alors, il y a trois choses par rapport aux interventions jusqu'ici, par rapport à ce que disait Pascal sur le. Pour empêcher son chat de manger les souris et tout ça, et la question de la prédation est considérée que c'est un confronté à une idée qui devient vertigineuse. Mais je voudrais juste pointer effectivement que je la trouve assez vertigineuse aussi, on n'est pas tellement capable d'imaginer grand chose sur comment essayer de résoudre ce problème-là. C'est déjà bien de reconnaître que c'est un problème, qu'il y a un problème là, qu'il y a un problème éthique à cet endroit-là. Et c'est aussi, il faut aussi. On garde à l'esprit aussi que ce problème-là, on s'y attaque en ce qui concerne l'espèce humaine. C'est-à-dire que la médecine, s'occuper des maladies, etc., c'est aussi un problème vertigineux. Quoi. Ça veut dire, ça va, c'est une lutte sans fin quelque part pour le moment, on va la percevoir comme ça. Quoi. De la même façon que quand apparaît un virus, etc., le sida ou je sais pas quoi, ou la épidémie qui a commencé, on n'a pas la solution au départ, mais on rejette pas les solutions ni de faire des recherches sur la question quand ça considère l'espèce humaine. En fait. C'est-à-dire quand c'est des attaques microbiennes, virales, etc., c'est de la prédation. La prédation, ça définit pas si le prédateur est plus gros que le prédaté. Ça n'a rien à voir avec la définition de la prédation. Donc c'est une prédation aussi. Et cette prédation-là, c'est vertigineux de s'y attaquer. Celle qui concerne rien que les êtres humains et les prédateurs et les êtres humains. C'est déjà vertigineux aussi, mais on ne rejette pas la médecine, ni les efforts qu'on peut en faire, ni les recherches, ni les tâtonnements, ni les erreurs qu'on peut faire à des moments, sous couvert que le truc nous dépasse, a priori, qu'on essaie de tâtonner, de voir des choses. La prédation, c'est pas autre chose que ça non plus, quoi, que cette lutte dans les hôpitaux. C'était une petite idée par rapport à ça. Cette prédation, on y pense rarement, en fait. Quand on parle de prédation, on pense rarement à celle-là. Et les idées qu'on a sur la prédation, on les applique rarement dans ce cas-là, de cette prédation sur les êtres humains. Le discours qu'on a sur la prédation en général sur les êtres humains, sur les animaux, ne nous implique pas nous, donc on arrive plus facilement à faire de la concession sur le dos des autres que quand c'est nous qui sommes nous-mêmes, enfin quand on est attaqué et quand on est personnellement sujet de la prédation. Et effectivement, c'est un truc vertigineux aussi, mais ça, je pense que c'est déjà un pas en avant de considérer que c'est un problème, et le deuxième pas, ça serait de essayer d'envisager des solutions. Et le végétarisme est une solution par rapport à ça, qu'on considère que cette prédation-là, nous, on essaie de se l'appliquer à nous, quoi, d'essayer de sortir ce schéma de la prédation. C'est aussi la prédation. La deuxième chose, c'était par rapport à Denis, sur il y a une confusion peut-être pour essayer de lever, c'est faire un amalgame entre ce qu'on appelle les lois de la physique et les lois naturelles. Alors souvent le mot loi naturelle est justement utilisé pour définir ce qui est une loi de physique. Donc, la théorie de la gravitation, on peut dire une loi naturelle ou une loi de la physique. Et ça, c'est une grande différence, c'est-à-dire que justement, une loi physique, on ne peut pas la transgresser. Si c'est une description du monde, si on dit qu'un corps, il y a une loi qui définit la gravitation, on ne peut pas transgresser cette loi, mais on est soumis à la gravitation. Ce que tu définis souvent, tu fais souvent un amalgame entre ça, et entre une loi naturelle qu'on transgresserait. Si on la transgresse, attention les malheurs qui nous arrivent sur la tête. C'est-à-dire si on vit dans une cave, on va mourir, bon, si on vit dans un HLM, si on respecte cette loi naturelle, que tu appelles naturelle. Enfin, à mon avis, il y a une grosse différence à faire entre les lois physiques qui sont en cours d'élaboration, qui sont pas aujourd'hui les lois qui décrivent à coup sûr le monde comme il fonctionne, c'est une modélisation de comment ça fonctionne, mais ces lois-là, soit elles sont vraies, soit elles sont pas vraies, soit à un moment donné, on fait des observations qui les remet en cause, mais on les transgresse pas, quoi. Soit elles sont fausses, soit elles sont vraies, et ça n'a rien à voir entre... Il y a une grosse différence entre ces lois physiques qui sont des fois les lois naturelles, et les lois naturelles au sens où on fait des OGM, et les OGM ça fonctionne, les plantes elles poussent, etc. Et les lois de la physique s'appliquent tout à fait pour les OGM. La troisième chose, c'est que pour peut-être l'incompréhension qu'on ressent entre les deux camps, elle vient peut-être d'une position stratégique au départ, dont les conséquences n'ont pas été évaluées trop. C'est que on utilise, quand on parle de nature, c'est souvent donc, comme nous on l'utilise en tant que militants, comme je pense que vous l'utilisez, c'est donc ce qui est en dehors de l'être humain. Et j'ai l'impression que ce concept-là, enfin qui est utilisé comme. Si on prend cette définition-là, j'ai l'impression que c'est cette définition qui est retenue le plus souvent, c'est-à-dire ce qui est en dehors de l'être humain, c'est-à-dire que dehors c'est la nature, voilà, ou les constructions humaines. Est-ce que je peux dire, voilà. Ce mot-là qu'on a sous le coude, on s'en sert pour essayer de détrôner l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'utiliser la nature, je pense que on s'accroche comme une bouée à ce concept-là, qui est là sous le coude, et qui nous permet de relativiser la place que l'être humain s'octroie en général dans la société. C'est-à-dire que l'être humain dans la société en général est anthropocentriste. C'est-à-dire qu'elle met l'être humain au centre, les religions, etc. C'est l'idée, qui est développée le plus souvent. Et utiliser le concept de la nature, je pense que certains militants ou certains écologistes ou militants de la cause animale veulent utiliser ce concept-là, se référer à la nature pour essayer de faire tomber de son piédestal l'espèce humaine. En définissant la nature comme quelque chose hors de l'espèce humaine et en lui accordant des valeurs positives, on est en train de dire que, regardez, en dehors de l'espèce humaine, les choses fonctionnent et les choses fonctionnent bien, on va bien, enfin on choisit les exemples qu'on veut. Et du coup, on se retrouve, à mon avis, les conséquences, c'est que de ne pas vouloir remettre en cause ce concept même-là de nature, tout en ayant une bonne intention au départ, qui est de mettre l'espèce humaine dans une place parmi d'autres, quoi, au sommet d'une branche, comme toutes les autres espèces aujourd'hui sont au sommet d'une même branche, ça coince le débat, c'est-à-dire que ensuite on en est amené donc une fois qu'on a accepté cette idée-là de nature et qu'on l'a pas remis en cause, ce concept-là en soi, on est coincé dans le débat, c'est-à-dire que un écologiste, un mangeur de viande, un végétarien va trouver toujours l'exemple qui fait que on va pouvoir, si on part de ce, si on admet le concept de nature d'entrée de jeu, on va toujours trouver le truc qui va justifier le comportement. C'est-à-dire que, à mon avis, utiliser ce concept-là, ça veut dire qu'on l'accepte implicitement et ça nous enferme. Ça nous enferme dans un débat sans fin, en fait. Un peu de la même façon que de dire que l'expérimentation animale, c'est pas scientifique, c'est-à-dire qu'on chacun d'un côté va dire, mais si, regarde, tel médicament a été testé, puis on a été délié, l'autre côté, mais regarde, non, tel médicament a tué. On en revient en fait à un débat où il y a des deux côtés, des éléments qui poussent d'un côté, qui poussent de l'autre, mais qui, au bout du compte, ne remettent pas en cause, reviennent pas à l'idée qu'on a sous-jacente au départ, c'est-à-dire parler d'éthique. C'est-à-dire de considérer que c'est ça, c'est d'abord sur cette base-là, l'éthique, nous, qu'on base sur la capacité à avoir des intérêts, c'est-à-dire de mourir heureux, de mourir en souffrance, ou pas, et baser nos discours sur ce schéma-là, sans forcément aller chercher des concepts qui, d'un premier abord, on a l'impression qu'ils peuvent nous aider et être une bouée, quoi, comme dans l'histoire de la culture hier, quoi. Dire que la culture c'est positif, donc hop, j'essaie de dire que la corrida c'est pas culturel parce que j'aime pas la corrida. C'est-à-dire qu'utiliser cette bouée, parce qu'au bout du compte, on se retrouve complètement coincé. On se retrouve coincé parce que au bout du compte, c'est l'idée au départ est fausse. Voilà.
Moi, je souhaitais donner une petite comparaison. En fait, on pourrait dire peut-être que l'homme est comme un jardinier. Et la nature est comme un terrain vague. Alors forcément, le terrain vague, il suffit à lui-même, il peut rester comme ça pendant des millions d'années. Si on ne change pas, on ne change pas, et ça reste un terrain vague. Si on balance sur le terrain vague, mettons toutes les qui passent un hectare, si on balance sur le terrain vague un homme qui n'a pas la conscience qui est un jardinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par construire des grandes maisons en béton, il va lâcher des lapins partout parce que c'est son intérêt à lui. Alors peut-être qu'il y aura un autre homme dans un autre coin, lui, il n'aura pas du tout envie qu'il y ait des lapins, ils vont tout dévorer, il aura planté des carottes au même moment, il n'y aura pas de concertation, tout ça. Ça va être détruit, et au final, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, l'homme est antinaturel, il fait que des conneries quand il veut changer les choses, et au final, on a un beau terrain vague, et maintenant, on a un terrain dévoré par les lapins, avec plein de bâtons qui construisent. Seulement, le problème, c'est que les hommes en question, ils n'ont pas du tout essayé de faire les choses bien, pas du tout essayé de faire les choses avec conscience. Alors si on change de mentalité vis-à-vis de la modification du terrain vague qui est la nature, parce qu'il n'y a pas de conscience, comme on a dit dans la nature, ça, il n'y a aucune volonté dans la nature, mais si nous, on décide de faire ça à partir de maintenant, du 21e siècle, comme des jardiniers, et un jardinier, c'est un travail de mise en de réflexion, de conscience, quand il met deux plantes ensemble, il ne les met pas ensemble pour des raisons bêtes, c'est ce qu'il fait.
eh bien on pourrait obtenir un joli jardin. Un jardin, il en existe. Aucun des jardins n'est naturel. Pourtant, on ne va pas dire les jardiniers, les jardins n'existent pas dans la nature, c'est très beau ce que tu as fait, mais c'est pas naturel. On ne lui dit pas ça. Et pourtant, ce qu'il fait est beau quand même. Et je pense qu'on pourrait, à l'avenir, dire, ben voilà, si jamais on essayait de faire comme ça, si on essayait de transformer la terre en jardin, est-ce que ça serait pas mieux, hein? Est-ce que si on a la possibilité de le faire, est-ce que ça serait pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas... on ne peut pas faire ça.
Non, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire.
Alors, Fred.
Moi, je voulais insister sur le fait qu'il y avait les deux sens de la nature. Et pour moi, on a parlé un peu des deux alternativement, sans vraiment que je comprenne vraiment quel était l'union entre les deux. Sur nature, d'où est issu l'être humain, la terre, les forêts, le ciel, etc. La nature. Et la nature de quelque chose, la nature de l'être humain, la nature des animaux, qui est plus le sens, à mon avis, du débat. C'est plus parti de là. C'est-à-dire, on suppose que être un chat, c'est ça, par exemple, pour être un chat. Donc, on attend de lui tel comportement, et on va justifier tel raisonnement sur. À propos de ce chat, que ça devrait être comme ça, c'est la nature. Donc c'est la nature du chat. Et pour moi, c'est plus ça le débat. C'est pas trop la nature. La nature, oui, la nature de l'environnement. Alors qu'on est un peu sauté entre les deux termes régulièrement.
Laurent.
Oui.
Je vous remercie.
C'était. Parce que je ne comprenais pas ce que Denis disait tout à l'heure. Ce que tu disais tout à l'heure sur tes lois universelles, en fait, tu as dit si quelqu'un il vit enfermé dans une grotte, il dépérit, un truc comme ça. Et, une cave. Bon, une cave. Mais, enfin, je dirais comme Sébastien, c'est une loi de la physique, quoi. C'est simplement qu'il n'a pas de vitamine D s'il est dans l'obscurité totale. Ouais, mais alors pourquoi. Pourquoi appeler ça des grandes lois universelles comme si ça avait un caractère sacré, alors simplement le phénomène de synthèse de la vitamine D, c'est tout, quoi. C'est pas... Pourquoi est-ce qu'on veut y... Enfin, voilà. Non, mais en gros, quoi, là, c'était ça, quoi. Pourquoi... Enfin, tu vois, on y met des étiquettes pour... Enfin, on sait pourquoi, en fait. Voilà.
Alors, David.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Seb, ça m'a assez plu. À l'idée du conflit parental, Dieu le Père qui nous dit multipliez-vous sur la planète, on se fout bordel, et puis la place de maman nature qui est profanée, alors c'est plus qui on doit croire, vraiment on peut pas. Mais moi je veux insister en fait sur les conséquences de cette croyance en la nature, parce que comme je ne sais plus qui l'a dit, effectivement je pense que ceux qui invoquent la nature en chantant cette salle, c'est plutôt pour les animaux, c'est-à-dire pour les tirer de là, et donc comme tu l'as dit. Pour relativiser la place des humains et des humains sur la Terre. Mais moi je vais vous citer une anecdote. Une fois j'étais devant la télé avec un copain à moi, j'avais fait un reportage animalier, il y a un lion qui s'est mis à bouffer une gazelle. Mon copain il avait ah comme ça c'est un peu c'est assez choquant en fait. Donc, là le lion était assez virulent quoi. Et il s'est repris tout de suite en disant non mais de toute façon c'est la nature. Et du tout au tout, son visage a changé de forme, quoi. Il est devenu paisible, heureux. J'ai peur qu'en fait les gens ne se rendent pas compte qu'on peut se désensibiliser assez rapidement avec ce genre de pensée, quoi.
Il a dit à la gazelle.
Ah bah elle n'était plus trop en position d'écouter quoi que ce soit.
En direct.
C'est
à la télé.
Et voilà quoi. Donc voilà, c'est tout.
Dominique. Oui, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que Seb a dit que l'homme ne faisait pas partie de la nature ou quelque chose comme ça.
Non, j'ai dit qu'il y avait deux définitions qui couraient en général, celle qui disait que la nature c'est et celle qui disait que la nature c'est ce qu'on met en. Deux définitions qui courent en général, que j'entends utiliser. C'est pas ma définition à moi, parce que moi je ne reconnais pas la nature. Enfin, ce qui existe, il y a deux définitions qui courent, celle qui dit le monde, la nature c'est tout ce qui existe, ce serait ma position à moi, ouais. Je n'ai pas envie de utilisait du coup ce mot nature, et l'autre qui utilisait plus couramment, c'est-à-dire la nature, c'est ce qui est, et ce qui n'est pas être humain, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été touché par être humain.
Oui, mais
c'est
si...
deux définitions que j'ai l'impression qu'il y a...
Et si des gens de définition fausse, on les rejette, et puis c'est tout, parce que moi, je regarde la Spinoza à niveau, c'est ce que j'ai appris en classe, l'homme appartient à la nature, et je crois que tous les gens qui sont allés à l'école, ils ont appris ça, quoi. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Maintenant, il y a des mauvais élèves qui courent derrière. Et on nous a appris que l'homme appartient à la nature, et on nous a appris que la nature, ça pouvait être le bien, le mal, et tout ce qui s'ensuit, et qu'en effet, il y avait une notion dans l'être humain.
Donc Spinoza, il serait la deuxième, il dit la nature, c'est tout ce qui existe. Et en fait, il a blasphémé, à un moment donné le fait qu'on justement la nature, dans l'idée de tout le monde à l'époque où il a dit ça, c'est que la nature, c'était ce qui n'est pas l'être humain. Donc quand il a dit ça, lui, il a dit la nature, c'est ce qui existe. Donc l'être humain fait partie de la nature.
Oui, voilà,
donc
oui.
Il a utilisé la première définition. Donc,
oui, c'est la seule bonne.
Et c'est ça son blasphème, c'est pour ça qu'il a été...
D'accord, mais je veux dire que c'est ce que nous on apprend à l'heure actuelle. Donc si on veut revenir en arrière à des choses fausses, on peut dire que la nature, on la rejette parce qu'elle justifie des choses. Enfin bon, moi je sais pas comment dire, j'ai oublié, mais c'est un mauvais argument, l'argument de la nature comme l'argument, mais j'ai déjà dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire, de la tradition, c'est des mauvais arguments, on peut tout justifier, on peut dire, ah ben celle-là, elle va faire ça parce que c'est une femme, quelquefois nous on nous dit, tu as fait la cuisine, mais moi la cuisine, je n'ai pas à faire, je veux dire que c'est pas parce que tu es une femme que tu fais la cuisine, c'est la même chose, donc je veux dire, c'est pas l'idée de femme qui est mauvaise, c'est l'idée de la personne qui dit que la femme va faire la cuisine. C'est pas l'idée de la nature qui est mauvaise, c'est la personne qui dit on fait comme ça parce que la nature le veut. C'est dans la tête des gens, c'est pas les... Et la nature, moi j'aime bien l'idée de la nature parce que quand je suis à Paris toute l'année dans un climat un peu artificiel, j'aime bien voir des arbres. Pour moi les arbres c'est la nature, donc je trouve que la nature elle a son charme.
Yves.
Enfin, un peu des embryons de réponse déjà à ce que tu avais dit tout à l'heure et puis à ce que tu disais aussi. C'est pas que critiquer la mauvaise foi humaine. L'idée de nature, c'est vraiment une idée bien particulière. Je trouve que c'était net. Après que tu aies pris la parole, Fred, il y a Laurent qui a parlé et je trouve que ce qu'il disait, c'est complètement une réponse. Enfin, une réponse. C'était en tout cas quelque chose qui allait dans. Qui avait rapport à ce que tu venais de dire, quand il a pris l'exemple de la grotte, et ça, il a dit, mais en fait, c'est un problème qui est lié à une loi de la physique, il y a un manque de vitamine D quand on vit dans la pénombre, et c'est pas la transgression d'une loi universelle. Et je crois que c'est la grosse différence entre cette idée de nature, quoi qu'on mette dedans, et l'idée de réalité, et le fait de se passer de l'idée de nature. C'est que dans un même événement, c'est un événement concret, quelqu'un qui va se mettre à l'ombre pour un bout de temps et qui dépérit, et ben dans un cas, ça va être transformé en une histoire où finalement il n'a pas respecté sa vraie nature et du coup il a violé une loi universelle. C'est-à-dire qu'il a violé sa propre nature, il a transgressé sa propre nature qui était de vivre au soleil, et il est puni pour ça. C'est-à-dire que là, on est dans un schéma qui est de type religieux, et qui véhicule une norme, c'est-à-dire que ça véhicule une norme de comportement. C'est dire, vous allez violer quelque chose d'imposant, d'important, de sacré, et vous allez en subir les conséquences, si vous ne faites pas comme ci ou comme ça. Et puis dans l'autre cas, ce que disait Laurent, et ben voilà, il a été à l'ombre et du coup il n'a pas synthétisé de vitamine D, et puis voilà, ben la conséquence c'est qu'il est malade. Et le second cas, c'est un cas qui est plus en termes de nature, c'est-à-dire qu'il n'a pas violé sa propre nature, il n'a pas respecté sa nature, simplement il a fait un truc parmi 100 000 autres d'ailleurs qu'il aurait pu faire et qui se retrouve à avoir des conséquences négatives. Et c'est plus du tout une question de respecter ou pas un ordre, de respecter une sorte d'être auquel il faudrait coller ou non, donc de respecter finalement une norme ou non, c'est simplement de faire attention à ce qu'on fait, aux conséquences de ce qu'on fait. Mais c'est un truc extrêmement concret et qui nous libère de tout un poids normatif. Et c'est un poids normatif qui est en fait énorme parce que c'est pas simplement notre nature comme ça, notre nature avec un petit n, c'est que cette nature-là, elle est reliée à tout l'ordre naturel avec un grand n, avec une sorte de grosse, de puissance énorme qui veille à ce que tout soit bien carré et ordonné, et où du coup, ça crée un peu une sorte de peur et de terreur, il faut surtout pas aller à l'encontre de la nature, etc. quoi. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, un sentiment de type religieux ou mystique. Et c'est ça que je critique dans l'idée de nature. C'est pour ça que je pense que l'idée de nature, c'est pas le contenu qui est gênant, c'est l'idée elle-même. C'est quand on parle, quand on prend l'idée de réalité, on court-circuite ce contenu de type...
L'idée de certains.
L'idée de certains. Oui, oui.
Denis.
Oui. Si tu effectivement décris la réalité telle que tu peux croire, décris les lois universelles, d'accord. Le problème, c'est que tu prends un moment de l'évolution du monde et tu dis maintenant, c'est à partir de comme ça que ça va marcher. C'est-à-dire, je fonctionne de telle façon, donc si par exemple il manque des vitamines, je prends des vitamines, mais tu n'expliques absolument pas la cause de pourquoi tu as besoin de vitamines. T'explique pas du tout pourquoi l'être humain il fonctionne de telle ou telle façon et il se comporte de telle ou telle façon. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu peux toujours justifier en disant effectivement, le médecin classique il va dire vous avez mal à la jambe, vous mettez un emplâtre, vous êtes guéri. Sauf que s'il ne voit pas la cause de la maladie, il va toujours être malade. Et c'est ça le problème de ton argumentation, c'est que tu abordes absolument pas la cause, tu abordes que la conséquence. Il manque quelque chose, paf, je mets une vitamine, c'est bon. Voilà. Donc, il faut parler là, justement, de positif et négatif. C'est-à-dire que l'être individu, il a une conscience. Et cette conscience, elle lui permet justement de savoir ce qui est positif et ce qui est négatif. Et donc, en fonction de ça, il va par lui-même, et c'est bien pour ça qu'on a toujours besoin de se référer à nous-mêmes pour savoir comment on agit, parce qu'autrement, tu n'as pas de guide. Tu peux te guider sur le théoricien du coin, tu peux te guider sur ta mère, tu peux te guider, etc. Ça n'empêche que toi, en tant qu'individu, si tu veux progresser sur toi-même, tu es bien forcé de faire une espèce d'équilibre, de rechercher un espèce d'équilibre, et cet équilibre, il va t'induire un certain comportement conscient, justement, qui t'aidera à progresser. Et je pense que c'est quand même ce qu'on essaye de faire. Et je pense qu'on est tous d'accord quand même là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si on pense que la défense des animaux, ça permet à l'individu, y compris, de progresser sur lui-même, eh ben, c'est ce qu'il faut faire de toute évidence. Par contre, si on n'en voit que les effets négatifs, c'est-à-dire la destruction de l'environnement, la destruction des animaux, la destruction de l'être humain en tant que tel, ça peut être que du négatif. Après, c'est purement et simplement en termes de choix de la personne. Tu as toujours le choix, comme je le disais, d'aller dans ta cave et de manquer de vitamines, machin, et puis, ou d'être au soleil et de essayer de vivre normalement. Ça n'empêche que si on prend l'idée d'une HLM, je pense pas que si tu demandes aux gens s'ils sont très heureux d'être dans leur HLM, confinés dans le machin, tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve que l'être humain par lui-même, il a justement cette conscience qui lui permet d'évoluer et de vouloir évoluer vers quelque chose de mieux. Or, le problème, c'est qu'il peut faire parfaitement des tas d'erreurs, et ça, justement, l'humanité est là pour montrer que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est justement ça le problème de l'homme. C'est qu'il n'a pas un truc où on va lui dire « fais ci, fais ça ». L'homme, il a le libre arbitre. Et c'est justement ça qui le différencie. C'est-à-dire qu'il peut agir positivement ou il peut agir négativement. Et à partir de ça, ben, libre à chacun de savoir s'il a envie d'œuvrer vers le positif ou d'œuvrer vers le négatif.
Ce que tu disais, Fred, c'est vrai que j'ai senti que par rapport aux idées de nature, comme quoi l'une dévie un peu du sujet, c'est ce que.
C'est
celle qui s'associe à, par exemple, un animal, nature de quelque chose, d'un objet, quoi. Pas la nature toute seule. Bon, ben, j'ai peut-être dénié un peu du sujet tout à l'heure en parlant. Donc, je me rectifie. Peut-être que empêcher que des animaux se débarrent entre eux, c'est, dans l'idée de ce que je voulais dire, contribuer à faire de la terre un genre. Et devenir, si nous on est végétal, on est carnivore, si on apprenait par exemple que ben non, l'homme est carnivore, ben, ce serait bien justement d'aller contre cette nature, d'être végétarien, parce que c'est contribuer à faire de la terre un jardin.
David.
Oui, ça arrive souvent qu'on, quand on parle, de remettre en question des choses comme la prédation. Bon, comme Clément par exemple disait, bon, insister sur le fait, sur notre petitesse par rapport à l'univers entier, ou bon, d'autres qui cherchent des ordres dans la nature. Nous on apparaît comme étant ceux qui aurions une prétention, un orgueil, qu'on serait des casse-coups, des apprentis sorciers, je sais pas comment dire. Ben bon, à penser que nous pouvons, avec notre pauvre petite intelligence, découvrir, critiquer l'ordre de la nature, du grand tout, qui est tellement plus grand que nous. Donc ça apparaît comme nous qui faisons un péché d'orgueil, d'hubris ou de quelque chose comme ça, d'aller à l'encontre de ce qui a été décidé par les dieux, l'ordre des choses. Moi, je trouve que, bon, c'est vrai qu'on peut se sentir, avoir une espèce de vertige face à l'idée de tout régenter, de tout changer dans la nature, les chats qui attrapent les seaux et tout ça, mais que l'orgueil ou l'humilité, c'est pas forcément que dans ce sens-là qu'il faut le voir. Je trouve qu'il y a aussi un orgueil immense à prétendre dire « voici tel qu'est l'ordre de la nature ». Je sais comment doivent être les choses, je suis, moi, à même d'interpréter que le fait que les chats mangent des souris implique qu'il y ait une volonté, un ordre impliqué ou je sais pas quoi, qui serait que les chats doivent manger des souris. Quand on constate qu'effectivement on dépérit si on n'est pas au soleil, de vouloir dire je sais quelles sont les causes, les vraies causes de la chose. Je veux dire que c'est aussi une attitude assez, assez humble de dire eh ben moi je constate que ça dépend de phénomènes chimiques, de vitamine D, que si on prend de la vitamine D, je veux dire d'essayer pas à pas d'avoir une attitude analytique vis-à-vis des choses. Les personnes qui cherchent un grand ordre de la nature vont plutôt vers une attitude synthétique. Mais je veux dire, moi aussi, j'aurais envie d'avoir une attitude synthétique, de comprendre le grand tout, de comment marche l'univers, sur quelle base c'est fait. J'ai envie, mais je veux dire, j'ai pas envie de, non plus de dire, je sais, voilà. Je veux dire, c'est... de dire, moi, c'est bien évident que la cause, elle est au-delà, que la cause, c'est la lumière, qui serait le principe de la vie. Peut-être. Mais je trouve qu'il y a aussi un manque d'humilité de la part des personnes qui veulent absolument interpréter l'ordre de la nature. Alors, un manque d'humilité ou un manque de sincérité, effectivement. Consciente ou pas consciente, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'interpréter l'ordre de la nature quand cet ordre de la nature, la conclusion à laquelle on arrive, ça nous arrange plutôt, quoi. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas les souris, nous ne sommes pas les souris et c'est pas nous que les chats, qui sont tellement gentils, vont déchiqueter. Par contre, on a une attitude beaucoup plus pragmatique et analytique, et quand il s'agit des microbes, cette prédation-là, on n'essaye pas de la replacer dans le grand tout, on essaye de se dire comment faire pour sauver ma peau, quoi.
Oui, d'un tigre qui attaque régulièrement.
Oui. Oui, mais bon, c'est le cadre, c'est le cas rare, quoi. C'est le cas beaucoup plus rare. Globalement, la prédation des tigres, on en est préservé, et effectivement, il ne nous reste que la prédation des microbes. Et que bon, moi, je trouve que c'est aussi une attitude plus humble de se dire, eh ben moi, face à un cas, ben, le chat, il attaque la souris, eh ben, qu'est-ce que ça me ferait d'être la souris, d'être le chat, d'être frustré de ses envies d'attaquer la souris, je sais que c'est désagréable, d'être la souris attaquée par le chat, je sais que c'est plus qu'un peu désagréable, quoi. Et d'essayer de se poser, peser le pour et le contre un peu d'une façon microscopique sur le cas précis du chat que j'ai face à moi, de la souris que j'ai face à moi, ouais. Et ensuite de fil en aiguille d'essayer de régler les problèmes les uns après les autres quand ils se posent, tout en essayant avec notre faible intelligence de comprendre quelles vont être les conséquences de nos choses, de créer un grand jardin qui serait... la terre sans chat qui attaque les souris, c'est peut-être pas facile. Il y a effectivement des phénomènes d'équilibre et de déséquilibre qu'on risque d'avoir une prolifération de souris. Se poser effectivement ces questions, mais toujours en essayant d'avoir une attitude pragmatique. Et moi, je trouve que c'est moins que ça, c'est moins orgueilleux que de se décréter branché sur le grand tout et de décréter que je sais les lois qu'il ne faut pas transgresser du grand tout. Voilà.
Donc en fait, moi je voulais revenir à l'exposé de Yves Bollandel sur le...
David, excuse-moi, c'est juste une question. On est combien à manger ce soir après ceux qui lèvent la main
Comme ça, il y a des gens en plus.
Il y a des gens en plus.
On va plutôt faire qui n'y mange pas, quoi.
Ouais, qui ne mange pas.
On est combien qu'on va manger? On va manger personne.
Il y a qui est parti?
On est parti.
Bon, alors qui ne mange pas ce soir qui est parmi nous là, qui ne mange pas avec nous?
Deux personnes à peu près.
Deux personnes avec nous.
Comme il y en a au moins deux qui sont arrivés. Enfin, ça fait à peu près pareil que midi. C'était pareil que midi à soir.
25?
Oui.
Ok, merci.
J'ai pas très faim, tu me comptes moitié. Ah non,
tu fais la même avec Nathalie.
Bon,
Donc en fait, je voulais reprendre l'idée que tu avais en fait exposée à la base, c'est-à-dire l'antinaturalisme et pourquoi il faut être antinaturaliste. Et je vais essayer de prouver pourquoi toute personne qui croit en la nature devrait être antinaturaliste. En fait.
Très beau.
Vous voulez dire pourquoi c'est pas grave. Ça va être rapide. CPNT, ça veut dire quoi? Alors, vous avez des gens d'un côté qui vont légitimer l'inverse de ce que vous prenez vous, c'est-à-dire le fait de chasser. Sur le même fondement, il y a un moment où vous allez être bloqué, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, un moment où tu ne pourras lui dire que non, moi je suis pour le fait de ne pas tuer ou ne pas chasser, et lui dire mais si, il faut chasser, et chacun invoquera exactement le même argument, la nature. Donc la seule chose qui pourra vous départager finalement...
Non, moi ça sera la cruauté, on en a discuté d'ailleurs tous les deux.
La seule chose qui pourra...
Ça sera pas la nature.
La seule chose qui pourra vous départager, ça va être un raisonnement basé sur l'éthique, c'est-à-dire sur une confrontation rationnelle d'arguments.
Et je te dis que justement la nature n'est pas un argument.
C'est difficile, il y a une subtilité à saisir, là je vais rater.
Ah oui, c'est
pas difficile. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que si... Si les gens n'ont pas recours à l'éthique, donc c'est-à-dire si vous n'abandonnez pas leur argument stérile qui était le concept de nature, ils vont en arriver à un non-dialogue qui est une sorte de dialogue de sourds. Donc à quoi bon dialoguer si c'est pour être dans cette situation? Donc en fait, dans ce contexte-là, il faut être antinaturaliste dans le sens où le naturalisme, ce n'est pas la négation de la nature, mais l'idée que des lois doivent découler de la reconnaissance de la nature. Donc on cherche pas à savoir finalement si la nature existe ou si elle n'existe pas. On va dire simplement que si des lois découlant de la nature existent, on ne va pas pouvoir les prendre en compte puisque chacun va imposer des. Puisque les gens vont imposer finalement des lois contraires. Donc c'est là. Deux lois contraires, ça nulle. Donc c'est tout. Vous voyez le truc là?
Oui, c'est-à-dire que les lois.
Yves.
Les lois de la nature, c'est une invention des chasseurs, cette fois-là.
la loi, c'est une loi et une invention, il n'est pas vraiment une loi. La loi des chasseurs, c'est une fausse loi. Parce qu'ils donnent des arguments qui sont du conseil subjectif.
La loi
du
pétrisme.
Non, mais moi, mes lois, elles marchent sur les types, comme tout type, pas sur la nature, pas la nature. Est-ce que les animaux souffrent ou ne souffrent pas? Moi, je m'en fous de la nature. Et si on me donne des lois naturelles, je dis des lois naturelles, j'en ai rien à faire.
Donc tu crois pas en la nature,
mais je crois que les lois de la nature, elles ne sont pas comme elles sont évolutives, elles ne sont pas normatives. Donc, c'est tout. Si tu veux faire entrer des lois, ça c'est naturel, ça c'est pas naturel, c'est comme si
les lois ne sont pas normatives, c'est pas des lois.
Ben justement, c'est ce que je peux te faire comprendre. Je veux te faire comprendre que les lois normatives ne sont pas des lois, donc je rejette les lois soi-disant sur la nature. Et bien entendu, c'est que les lois normatives, c'est de retrouver ce qu'on a envie de trouver. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est qu'une démarche éthique est mieux qu'une démarche non éthique. Voilà. On va avec la nature. Donc, c'est les mots qui me choquent, c'est tout, mais on a les mêmes idées, c'est normal. On bloque sur les mots. Et je pense que les gens qui c'est la loi de la nature, c'est des gens qui sont prêts c'est des mafieux, je ne sais pas ce que c'est des gens qui essaient de vous avoir, quoi. Hein, c'est très bien de faire des lois qui n'existent pas pour le supporter. Ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'ailleurs, moi, j'ai un chef de service qui passe notre temps à dire ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça vous fait rigoler. On dit, ah bon, d'accord, ok. Mais avec vous, ça va être quand on a envie. Ça fait 10 ans que j'en rappelle ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. C'est vrai que ça n'existe pas.
7 ans.
Ça va. C'est chaud.
Non, c'est par rapport aux histoires de prédation, en fait. Ce qu'avait dit David, là, sur... son copain là qui a regardé des horreurs à la télé et puis ensuite il s'était dit, enfin, qui avait commencé par avoir un mouvement de recul et puis ensuite il s'était dit ah, mais non mais c'est l'ordre naturel. Et il y a quand même, dans notre société il y a vachement de fascination pour les spectacles de prédation, les spectacles animaliers, c'est vraiment très souvent des spectacles de prédation.
Depuis l'aube de l'humanité, du temps des Romains, il y a eu d'abord les jeux.
Je voulais dire ça, les jeux entre les gladiateurs.
Et en général, quand on commence par la cruauté sur les animaux,
ces émissions animalières là qui montrent des spectacles de prédation, ça joue un peu la fonction effectivement des jeux de gladiateurs.
C'est la même chose, ça joue pas la fonction, c'est pareil.
Ouais. Mais je pense que ça a aussi une fonction. Enfin, ça a aussi un.
Mais non, ça se passe pas sur le sable.
Mais c'est avec des outils modernes, c'est un sentiment de la supériorité de l'homme, évidemment.
Je pense, en plus, il y a un truc, c'est un peu comme les. Les animaux, ils sont censés faire partie de la nature, c'est-à-dire faire partie de. D'un ordre dont ils sont des rouages, et c'est leur domaine, ils appartiennent à la nature, ils en sont les rouages, etc. Et nous, humains, on est censés faire partie de l'humanité, c'est qui est l'autre royaume qu'il y a dans le monde. L'humanité, c'est libre, c'est individuel, et les êtres de nature, ils sont déterminés, ils ne sont pas individuels, ils sont des fonctions.
Je leur dis, des animaux humains.
Mais du coup, quand on pense aux animaux sauvages, on pense à eux vraiment comme à des parties de la nature, quoi. On les voit vraiment comme en lien avec cette totalité et comme jouant leur rôle dans la totalité, quoi. Et du coup, ils sont complètement désindividualisés. Et je pense que c'est un petit peu qui a le rappel de cette désindividualisation et du fait qu'ils sont en fait fonctionnels, ils sont purement fonctionnels dans la réaction que rapportait David. Hein. C'est-à-dire qu'au début, son copain, il est un peu épouvanté par ce qu'il voit, et ensuite il se rappelle que mais non, en fait, c'est des fonctions au sein d'un ordre, quoi. Et puis ça le tranquillise, ça fait disparaître l'individualité, ça fait disparaître la réalité vécue, et ils deviennent des pures fonctions. Et je trouve ça super fort, ces histoires de désindividualisation des animaux, quoi. Du fait que c'est des êtres naturels, qu'ils ont une nature-fonction, ils sont censés, par exemple, être mus par leur nature, par avoir des instincts. Alors la notion d'instinct, c'est une sorte de notion qui est complètement... c'est un peu comme la vertu dormitive de Molière. C'est un truc qui, en fait, n'explique rien des comportements d'un individu. Simplement, on dit qu'il agit par instinct, mais quelque part, ça évacue la subjectivité de cet individu-là. C'est comme si c'était une sorte d'automate programmé, et on ne se pose plus la question de ce qu'il a ressenti, si c'est des désirs qui l'ont motivé, si c'est des craintes, enfin, de son vécu subjectif, quoi. Et aussi de son intelligence, etc., quoi. La notion d'instinct, c'est une sorte de notion passe-partout, un peu. C'est un peu la courroie de transmission de la nature. C'est ce que dicte la nature à l'individu pour faire qu'il garde bien sa place, qu'il tient bien son rang, qu'il remplit bien sa fonction, etc. Attends, je voulais en venir où ?
La notion d'individu,
ouais.
Pour la remplacer par
ils deviennent des représentants des rouages d'un homme, donc c'est aussi des spécimens de leur espèce, et puis leur espèce est censée être justement leur nature, c'est-à-dire ce qui leur dit quoi faire pour remplir leur office au sein du tout, quoi. Et en fait je trouve cette vision des animaux comme des purs rouages d'un ordre, c'est une vision complètement totalitaire. Je trouve que c'est assez proche des visions totalitaires, des visions sociales totalitaires, où on considère que dans les fascistes ou le stalinisme ou les trucs comme ça, ou le nazisme, on considère que c'est la totalité sociale qui est importante, c'est sa bonne marche, et les individus, ils n'existent pas en tant que tels, ils sont purement leur importance, elle vient uniquement de leur appartenance à la totalité et du fait qu'ils remplissent bien leur fonction sociale, quoi. Et je trouve que la vision qu'on a de la nature donc comme totalité et des animaux comme éléments naturels, elle est une sorte de décalque de cette vision sociale totalitaire. Et que c'est un truc qui est complètement dangereux pour les animaux parce qu'on ne les prend pas du tout en compte du coup, quoi. Et dans la réaction du copain de David, je trouve qu'il y a ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il rappelle qu'en fait, il y a un ordre et qu'ils sont des fonctions et hop, ça évacue toute possibilité d'y prendre au sérieux, avec en plus peut-être un autre truc. Mais moi j'ai souvent été frappé, comme par exemple les fachos, ils tiennent à fond à ce qui est de la répression. Les fachos, je veux dire les fascistes, l'extrême droite par exemple, c'est souvent des gens qui sont pour la peine de mort, qui sont pour des peines de prison costauds et tout ça, quoi. Et c'est des gens qui tiennent vachement à l'ordre, à l'idée d'ordre, quoi. Il faut qu'il y ait un ordre ferme, il faut que... Et je me demande dans quelle mesure... cette histoire de tenir à un ordre, à mon avis, il y a un truc un peu... vouloir appartenir à quelque chose de plus vaste, imposant encore une fois, et à quelque chose d'englobant, qui nous donne aussi une identité, qui soit un repère, enfin bon, tout ce genre de choses. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cette histoire de vouloir de la répression... C'est pas aussi un truc qu'ils utilisent pour donner de l'importance à cet ordre qu'ils veulent. C'est-à-dire que cet ordre, quelque part, il va s'asseoir, il va devenir imposant et respectable, et quelque part, respectable. Parce qu'il y aura une répression. Enfin, c'est la répression quelque part qui va l'asseoir. Mais pas concrètement, c'est vrai qu'avec la répression on assoit un ordre social, mais symboliquement. Et je me demande dans quelle mesure l'histoire de prédation, il n'y a pas aussi ça. C'est-à-dire que regarder des spectacles de prédation, c'est se confirmer que c'est bien un ordre, la nature, et que c'est un ordre imposant, respectable, à cause de sa cruauté, de sa brutalité, quoi.
Laurent.
Ouais, c'était pour l'histoire du libre arbitre. Je crois que l'humain avait le libre arbitre. Et
peut-être sous-entendu que les animaux n'ont pas de libre arbitre. Moi personnellement, je ne crois pas qu'on ait de libre arbitre. Bon, c'est peut-être pas du personnel, mais je vois pas tellement comment l'humain il l'aurait et pas les autres animaux, puisque on est des animaux et puis il y a une certaine continuité entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Je ne vois pas pourquoi d'un seul coup il y aurait l'humain qui aurait le libre arbitre et pas les autres. Enfin, c'est pratiquement pas possible.
Voilà. Et la vie.
Oui, je sais plus trop comme d'habitude. Enfin, non, simplement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans plein de choses. C'est peut-être normal dans un débat, mais là, j'avoue que je sais plus du tout. Je pense à quelqu'un qui arriverait dans la salle et qui entendrait le mot antinaturaliste. Et bon, ce serait quelqu'un, par exemple, qui mange de la viande et comment on arriverait à le convaincre simplement, avec des mots simples. De pas en manger en adoptant la théorie antinaturaliste. Alors j'ai bien compris plusieurs choses que finalement la nature, quoi qu'on en dise, quoi qu'on la, comme on la définit, peu importe, c'est pas la norme, parce que de toute façon on sait pas bien comment ça fonctionne, même si on a des lois et tout ça, on a analysé des choses, on saura jamais. L'humain, il est bien, c'est un être fini, il saura jamais comment analyser tout autour de lui. Donc je pense que effectivement la nature n'est pas la norme. Et que si on veut essayer de faire comprendre quelque chose à un petit être humain comme moi, il faut peut-être revenir à, je ne sais pas, mais peut-être que c'est la même chose, que la norme, c'est la souffrance ou l'absence de souffrance. Et donc, comment on fait concrètement pour débattre un peu plus de ça et... oui. Moi, alors, par contre, sur le libre-arbitre, je rebondis juste, je pense que l'homme, il a le libre-arbitre. Je ne sais pas si les animaux, ils ont leur libre-arbitre ou pas, mais je pense que l'homme, il choisit... de faire en gros, enfin je sais bien que c'est des termes manichéens que j'ai employés, mais le bien ou le mal, et je veux dire, bon bah, il n'y a pas photo là-dessus, quoi. Je veux dire, s'il veut, c'est sa liberté. Et c'est bien ça le problème, et c'est bien ça comment convaincre des gens dans leur liberté d'accepter la souffrance ou pas, quoi. Et je trouve qu'on se perd un peu dans l'histoire nature, pas nature. Enfin bon, que je comprends que la nature n'est pas la norme, ça c'est clair. Moi, pour moi, ça serait par rapport à tout ce qu'on débat, la souffrance ou l'absence de souffrance. Moi, je trouve que c'est super. Mais...
Pascal, tu
n'as plus de
choses à dire. Mais en fait, je crois qu'on ne peut pas faire sans les débats qu'on a là maintenant, on ne peut pas réduire à souffrance, pas souffrance, parce que parce qu'on se heurte obligatoirement, même nous, dans le enfin, moi, je me heurte à ça aussi, à. Toujours cette validation par la prédation qui existe dans la nature et qui est quand même indéniable. Enfin, au niveau des cellules, ça se passe comme ça, il y a du phagocytage, etc.
Non, mais je suis d'accord, mais il y a des objets de alors, comment tout le monde les aurait, voilà ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour simplifier les choses, je ne sais pas.
Bah, c'est voilà, pas si on... je sais pas si on peut les simplifier, justement, parce que c'est quand même quelque chose de très...
Parce qu'on est prisonnier aussi de ça.
Et donc pour revenir à ce que tu disais Yves sur le reportage, il y a donc ce mec là qui voit à la télé un animal se faire bouffer et sa première réaction elle est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle est une projection en fait, il a de l'empathie pour la gazelle par exemple et puis il se dit oh, quelle horreur égomorphique, mais je dis anthropomorphique parce que je me demande si l'empathie existe chez les animaux.
Quelle créature ?
Je sais pas. Je sais qu'elle existe chez les humains. Je sais pas si elle existe chez les animaux. Et je pense que c'est une réaction humaine, cette réaction d'empathie, de se mettre à la place de la gazelle en se disant ah là là, j'aimerais pas être ma proie. C'est ce qui nous fait réagir comme ça. Ça peut être de l'instinct. C'est ça que, voilà, tu vois, c'est ça qui est en fait qui me paraît vraiment épineux, c'est que il y a tellement de notions avec lesquelles on jongle là que c'est pas évident. Donc voilà, il y avait cette notion là d'empathie qui est typiquement humaine et qui justement rejoint le libre arbitre. Et la deuxième réaction du mec, c'est de dire ah mais non, mais dans la nature il n'y a pas. Il y a des voix qui réagissent ça, Et donc c'est typiquement humain de réagir comme ça. Et en effet, c'est là qu'on peut faire le choix ou pas de justifier les choses par empathie en disant je prends le parti de l'humain, ou de se rallier à la nature. Et c'est bien là le grand débat, et les deux dans la balance, il y a des arguments des deux côtés. On n'arrive pas à trancher, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trancher. Et par rapport à ce que tu dis, à l'individu et à l'espèce, il y a donc l'article d'un courrier international sur les droits des animaux, où le journaliste il a écrit « Comment je ne suis pas devenue végétarienne ?» Donc il y a toute une partie de l'article qui va plutôt dans notre sens, je dirais. Et sur la fin, il n'est pas devenu végétarien. Pourquoi ? Mais justement pour ça. Parce qu'il dit que les végétaliens privilégient l'individu, mais ne se soucient pas de la survie de l'espèce. Et que le non-végétarien se soucie de la survie de l'espèce, mais pas de l'individu. Donc ça reste tu vois, une espèce de truc.
Je pense que ça tombe assez bien que tu le dises, parce que je pense que effectivement ça montre l'importance du débat.
Ah oui, c'est bizarre.
Mais pas forcément, enfin je sais pas dans quel sens tu le disais, si tu voulais dire qu'il faudrait que les végétariens se soucient aussi des espèces.
J'en sais rien.
Mais moi je pense que se soucier d'une espèce, ça ne signifie rien. Je veux dire, on se soucie d'un être qui... pour reprendre des termes utilisés, dont la vie peut aller bien ou mal pour cet être, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de conscience de ce qui se passe, de conscience, de sensibilité, qui ressent le monde. Une espèce, c'est une abstraction, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le sens d'un... dans le sens où ça existe, si on considère qu'un groupe, ça peut exister, il a été défini par certains critères, etc. Mais je veux dire, il y a personne qui soit une espèce. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de souffrance, par exemple, dans la disparition d'une espèce. Il n'y a pas de souffrance en soi. Je veux dire, il n'y a pas non plus de jouissance dans la grande multiplication d'une espèce. L'espèce qui a le plus de succès aujourd'hui, c'est la poule. Je veux dire, c'est la poule qui a des millions, des milliards d'exemplaires dans le monde, quoi, dont pratiquement tous les individus souffrent terriblement. Et on peut dire, ah, l'espèce, c'est un grand succès, mais c'est un succès pour qui ? C'est un succès pour la catégorie qui s'en fiche, quoi. Je pense qu'on ne peut pas, effectivement, bâtir une éthique sur le respect des espèces en tant que telles. Maintenant, dire qu'on doit respecter les espèces parce qu'elles ont une importance esthétique, moi, je trouve... Je suis très content de savoir qu'il y a des tigres, des lions, différentes variétés de trucs comme ça. Je veux dire que c'est tout comme j'aimerais pas qu'on rase le Mont Blanc, quoi. Je veux dire, ça serait dommage qu'on détruise une œuvre d'art, qu'on détruise Mona Lisa ou je sais pas quoi, la Joconde. Mais la Joconde, elle va pas souffrir. C'est moi qui souffrirai, d'autres gens qui souffriront si on détruit la Joconde. Mais c'est pas la Joconde elle-même. De toute façon, si les espèces disparaissent, c'est pas les espèces qui souffriront, c'est éventuellement nous. Quand on a éradiqué l'espèce du virus de la variole, personne n'a dit « Oh, c'est terrible, une espèce en voie de disparition, une espèce a disparu, quoi. »
Des espèces de
puces. Hein ? Des espèces de puces, il y a 800 espèces de puces dans le monde, je crois, personne va se soucier particulièrement. Enfin, il n'y a pas de grande campagne pour la préservation des espèces de puces. Puis je voulais revenir sur cette histoire de déterminisme, de libre-arbitre, parce que je pense que ça rejoint le débat sur l'instinct et aussi sur la nature en tant que nature d'un être, quoi. On vit, je pense, dans la culture commune avec deux grandes catégories de formes de déterminisme. On a le déterminisme par les lois naturelles, qui sont des lois, disons, neutres, dans le sens que, bon, la loi de la gravitation, un objet, on le lâche, ça tombe. C'est des lois aussi qui peuvent... c'est des lois qui expliquent les choses par une cause. La cause de la chute, c'est le fait qu'on a lâché l'objet. Et ensuite, la cause, c'est une notion de qu'est-ce qui arrive avant. La cause précède l'effet. Il y a une autre grande catégorie où on a une autre façon d'expliquer les choses. c'est par le but. Pourquoi est-ce que Jacques se prive de nouilles ce soir? C'est pour maigrir. Le but va être après la chose expliquée. C'est-à-dire on explique une chose par quelque chose qui sera après et qui est une finalité. Bon, et la catégorie des êtres à laquelle on attribue une finalité, ben c'est nous, c'est tout le monde, c'est les êtres humains, grosso modo, c'est les gens autour de nous. Et puis si on se pose la question pour les animaux, eh ben, moi je crois de toute évidence, n'importe qui dira pourquoi est-ce que le chat il bouffe, c'est pour satisfaire sa faim, enfin c'est pour le plaisir de bouffer. Enfin, les animaux, de toute évidence, ont le même mode de détermination que nous. C'est par la finalité, par le but. Et c'est par dans cette détermination-là, ils sont libres, c'est-à-dire ils se choisissent leur but et ils agissent en fonction d'un but. Moi, il me semble que ce qu'on appelle la liberté ou le libre arbitre à un niveau zéro, c'est-à-dire sans chercher à aller savoir si la physique permet de parler du libre arbitre ou pas, c'est simplement la liberté, c'est la liberté de faire ce qui correspond à notre but, c'est-à-dire de réaliser nos buts, nos finalités qu'on a en nous. Et bien, les animaux, dans ce même sens, ils sont libres, ils ont le même libre arbitre que nous. Eh bien non, nous dit l'instinct, on vient dire non, les animaux n'agissent pas suivant des buts, suivant des finalités qui leur seraient propres, les animaux sont mus par l'instinct. Et l'instinct, c'est ce qui permet de dire que les animaux, c'est comme la loi de la gravitation, quoi. C'est de la même façon que la pierre tombe à cause de la gravitation, l'animal, l'oiseau fait son nid à cause de son instinct de faire son nid, quoi. Ce ne serait pas pour un but. Je pense que les oiseaux font leur nid pour un but qui n'est pas forcément le but qui serait de perpétuer l'espèce. Voilà, et ça c'est un autre truc, c'est que c'est clair que les animaux, les oiseaux ne savent pas qu'ils vont perpétuer leur espèce. Quand ils s'accouplent, ils s'accouplent pour le plaisir, qui est un plaisir immédiat. Alors soit on dit c'est l'instinct qui les pousse, on parle de pulsion. Pulsion c'est un truc qui est derrière nous, qui nous pousse vers un truc, mais qui n'est même pas une finalité qu'on aurait en nous, mais c'est comme la gravitation qui pousse la pierre vers le bas, on a une pulsion. On a des pulsions, mais je veux dire, ce que je fais, c'est pour satisfaire mes pulsions, c'est-à-dire c'est avec une finalité, c'est pour le plaisir que je vais en retirer.
Tu as la possibilité de satisfaire pas tes pulsions.
Oui. Et les animaux, de façon évidente aussi. Je veux dire que la biche qui est chassée par le prédateur et qui a envie à la fois de... qui a la pulsion, mettons, de protéger ses petits et qui a la pulsion aussi de se protéger elle-même, eh ben il arrive souvent que la biche, par exemple, se mette en danger en sortant du fourré pour attirer le loup ailleurs que vers ses petits. Pourtant, c'est clair que quand la biche fait ça, elle n'est pas en train de dire « Tralala, mon instinct me dit de faire ceci ». Non, elle a peur. Elle a peur pour elle, et elle a peur pour ses petits. Et par rapport à ces deux pulsions, eh ben, elle choisit. Elle fait le même choix que nous, quand nous faisons des choix libres, quand on va dire le bien et le mal, etc. Bon, ben là, on peut dire qu'elle choisit entre le bien et le mal. Je veux dire, à un niveau peut-être microscopique par rapport à des grandes théories humaines, mais je veux dire, c'est le même phénomène, et je pense qu'on peut le reconnaître très facilement parmi énormément d'animaux. Je dis pas pour les vers de terre, j'en sais rien, mais pour les animaux qui nous ressemblent le plus, ça me paraît tout à fait clair, quoi. Et donc je pense que cette idée d'instinct qui correspond aussi à une espèce de détermination interne qu'on attribue aux animaux, à la nature des animaux, que le chat il chasse par instinct, mais le chat il chasse pas par instinct, le chat il chasse d'abord pour en retirer du plaisir. Et de la même façon que le violeur viole pour en retirer du plaisir, et qu'on dit, ben, c'est pas bien, le plaisir qu'il en retirera, c'est peut-être bien en soi, mais je veux dire qu'il va faire du mal. Et ben le chat chasse pour retirer du plaisir, c'est bien qu'il en retire du plaisir en soi, mais il va faire du mal à une souris, quoi. Et pas essayer de se dire, ah, c'est une espèce de détermination naturelle, innée, et tout à fait inévitable, comme la gravitation, quoi.
Bah, on les voit tout le temps, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de ça pour survivre, puisqu'on les nourrit et ils le font quand même. Donc, certainement pas pour survivre.
Et puis l'instinct, l'animal machine à l'époque de Descartes, et maintenant, je sais que dans les campagnes anti-vivisection, réflexion, j'ai beaucoup lu les revues scientifiques, les livres scientifiques, et par exemple, Dawkins, un néo-darwinien, un jeune égoïste, etc., il dit dans son livre, il y a des lois pour le fœtus humain, il n'y a pas pour le singe qui pense. Donc les biologiques, ils savent bien que les animaux pensent que ce n'est pas des êtres instinctifs. Et plus on lit, et je trouve que c'est intéressant pour nous qui sommes dans la défense animale de souvent lire ces revues scientifiques parce qu'on voit l'évolution, surtout en biologie, on voit l'évolution des recherches sur les animaux qui rapprochent de plus en plus les animaux, le raisonnement des animaux de l'espèce humaine. Quand Dawkins dit le sage pense, bon, il y avait aussi toutes sortes d'études sur les corbeaux qui mentent, etc. On voit qu'ils ont, avant d'arriver à leur but, ils réfléchissent, tiens, comment je vais arriver, là il faut que je passe. Donc on voit de plus en plus que l'instinct, bon ben, ça nous simplifie les choses de dire que les animaux ont des instincts, mais moi je pense que, ne serait-ce que la chatte que j'avais, je voyais bien qu'elle réfléchissait avant de faire certaines choses. Elle était là, elle bougeait, elle était dans un sens, dans un autre, avant de décider. Mais en plus, dans les études scientifiques, c'est prouvé.
David.
Dawkins dit le sage pense. S'il pense.
Non, mais en fait, moi, là, j'ai cette petite réflexion, tout ce qu'on dit là, moi, je remarque que plein de gens qui mangent de la viande me le disent. Ils ont des chats et ils diraient la même chose que ce qu'on vient de dire nous. J'ai l'impression qu'en fait, les gens qui vont opposer des arguments comme quoi l'instinct, etc., ça va être surtout des intellectuels, des gens qui veulent absolument trouver des trucs. Mais la plupart des gens que moi, je connais, soit professionnellement, soit des trucs, c'est des gens qui vont m'expliquer que leur chat et tout, ils parlent avec eux, etc. C'est ça qui est assez amusant. Et pas tous, hein.
Non, toutes les revues de gare sont remplies de trucs sur l'instinct, ouais, sur le chasseur inné, sur la nature, sur le requin qui est le
nettoyeur des mers,
les boueurs des mers, enfin tous les trucs sur.
Peut-être pour les poissons, mais. Ce que je veux dire, c'est que même quand bien même il y aurait plein de revues partout dans les gars où tu veux, moi j'ai l'impression quand même que les gens, quand tu leur parles, qu'ils ont un chat ou un chien, la plupart du temps ils en parleront jamais comme une chose comme ça, un robot qui a un instinct. Mais je voulais surtout dire un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les arènes. Moi je suis pas les reportages animaliers qui remplaceraient les arènes et qui permettraient de dire les nations, etc. Moi j'ai l'impression que ça sert surtout aux gens à avaler la pilule comme mon copain a avalé la pilule. Je suis un peu compréhensif moi avec les gens, enfin, je ne suis pas certain qu'ils veulent absolument créer l'or comme ça. J'ai plus l'impression qu'ils le subissent, qu'ils subissent une réalité comme ce que tu as dit tout à l'heure, une réalité abyssale vis-à-vis de laquelle ils ne peuvent rien, et que de peur d'être damnés en fait.
De peur de
souffrir éternellement, de ne pouvoir pas agir là-dessus, ils se soulagent en. Voilà, avec ce genre de théorie.
Pourquoi ils ne regardent pas des trucs sur toutes les maladies, des reportages sur les cancéreux, des trucs comme ça, les gens ils se précipitent sur les reportages animaliers où on montre le loup.
Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'ils se précipitent aussi sur des reportages où on voit ce que tu as décrit tout à l'heure et que tu as dû voir dans le reportage, c'est-à-dire la biche qui sauve le loup. Et moi j'en ai vu des tonnes et des tonnes, quoi, pour prouver qu'effectivement. Les animaux pouvaient faire le bien, ils pouvaient sauver d'autres animaux, etc., même d'autres espèces, hein. Pas forcément avec ses propres. Et donc, je dis ça, c'est pas très intéressant dans la conversation, mais peut-être pour que nous, on ait un regard sur les gens qui serait moins machiavélique, quoi, si on peut dire. Moins basé sur une volonté d'instaurer une hiérarchie à tout prix, mais plutôt, peut-être, d'avoir une attitude peut-être un peu différente, moi, je pense. Mais pour nous, c'est pas très.
Sébastien.
Moi non plus, c'est pas très. C'était pour faire le parallèle, en fait, c'est que cette notion d'instinct, elle, petit à petit, est un petit peu remise en cause, en fait. Et que ça rejoint beaucoup ce que disait Yves sur le fait, et par rapport à ton reportage, c'est le fait d'individualiser. C'est vraiment ça qui est en jeu, en fait, dans l'instinct. C'est dingue. Est-ce que cette gazelle-là, elle est transférable? C'est une représentation? Et toute cette notion d'instinct, elle est remise en cause. Et il y a quand même un courant. D'éthologie avec James Goodall et le premier grand singe, etc., qui remettent beaucoup en cause ça, qui commencent à s'intéresser aux animaux en considérant que les animaux ont des émotions et que ces émotions-là sont quelque chose qu'on a à prendre en compte si on veut comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et souvent, c'est la notion d'instinct et d'individualisation, justement, c'est pas un hasard, à mon avis, si ça se rejoint, si le projet Grand Singe, c'est justement des éthologues, comme Janouda, etc., qui portent, je sais pas si elle a ça, enfin, c'est un rassemblement d'études d'éthologues et d'autres scientifiques, essaye de montrer par des études, de comportement animal, que les émotions ont quelque chose à voir, quoi, si on veut comprendre comment ça fonctionne. Et qui, justement, c'est par rapport à l'individuation, c'est des gens qui remettent en cause et qui essayent de d'ébranler la frontière entre les êtres humains et ceux qui ne sont pas humains. On se retrouve que c'est les mêmes personnes qui sont impliquées dans cette militance-là et qui remettent en cause, qui mettent en avant la question des émotions, etc. Et c'est les mêmes personnes qui ont commencé à donner des noms, des prénoms aux animaux qu'ils ont étudiés. Quoi. Et c'est tout à fait symptomatique, c'est-à-dire que Jane Goodall, je pense que c'est un des premiers, en tout cas dans cette lignée-là, tout ça, les noms, quand on lit leur compte rendu de recherche, etc., c'est des gens qui ont été faire des observations et qui redonnent l'individu, qui donnent une identité à l'individu, enfin, en tant qu'existant par lui-même, et non pas comme quelqu'un d'interchangeable dans un groupe, un lion égale un autre lion, fait la même chose que tout le même lion, etc. Et ça, c'est aussi, sur les reportages animaliers, il y a toute une autre génération de reportages en ce moment qui sont hyper intéressants et qui ne focalisent plus forcément que sur la boucherie, quoi, la prédation, etc. Et qui commencent à suivre, par exemple, la lionne qui nomme et qui vont suivre dans sa vie et qui vont commencer à prêter des émotions, etc. Et il y a toute une génération de documentaires actuellement. Je suis vraiment un homme de surprise, je tombe régulièrement sur des trucs comme ça, et qui, ben, comme par hasard, prêtent des émotions aux animaux et les individualisent et leur donnent. Et comme par hasard, se retrouvent dans le fer de lance un peu du véritable projet, etc., d'essayer de redonner enfin, la question des droits. Et, que ces animaux-là sont considérés comme des individus, quoi, et pas simplement comme des rouages, en fait, agissant par leur instinct. Ça, j'ai l'impression que quand même ça se rejoint. Le fait que l'instinct ce soit la courroie de transmission du naturalisme, du respect de la science, c'est peut-être ça qui est remis en cause par ces animaux.
Vous parlez de besoin, peut-être, plutôt que d'instinct, de besoin et d'instinct. Dans le fait que le jette sur la gazelle, c'est, si c'est pas un instinct, ça serait un besoin de se nourrir.
Un désir.
Un désir, je ne crois pas. Je crois qu'on a des besoins. Et les désirs, c'est il y en a un qui est vital, et l'autre qui ne l'est pas. Le désir n'est pas vital, le besoin l'est. Le besoin de boire et de manger.
Mais ça peut être les deux. Je veux dire que c'est un besoin, c'est pas dit, ça explique pas que le lion le fasse. Le lion, il peut avoir des besoins, par exemple, un lion qui est malade et qu'il faut lui donner une piqûre d'un antibiotique pour le soigner, il a le besoin de l'antibiotique. Mais en général, ce lion, il va pas se présenter au vétérinaire en disant un antibiotique, s'il te plaît, quoi. Je veux dire, il a objectivement un besoin pour continuer à vivre de l'antibiotique. Il n'en a pas de désir. Bon, dans le cas du lion qui jette sur...
Il n'en a pas de désir, c'est qu'il n'en a pas la notion d'existence, de possibilité, de voir comment ça n'existe pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses quand le lion se jette sur la gazelle. Il y a le désir, qui est son ressenti subjectif et qui est l'explication de son comportement. Il se comporte comme ça parce qu'il a le désir de le faire et que ça va lui faire plaisir. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Maintenant, si on cherche un niveau évolutif, évolutionnaire dans l'évolution de l'espèce lion, c'est sûr que les lions qui n'avaient pas le désir de se jeter sur les gazelles, mais avaient plutôt le désir d'aller à la plage, eh bien ils n'ont pas fait des petits, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que les lions d'aujourd'hui, leur désir s'accorde avec leurs besoins,
bah oui,
souvent, en général, mais pas toujours.
Comme nous, quoi.
Oui, mais il n'empêche que je pense qu'il est important de distinguer ces deux choses, le désir et le besoin, et de sauvegarder le désir comme existant chez les lions, comme chez les êtres humains.
Et les lions se reposent.
Non, ils font la vaisselle.
Ils se reposent. Exactement.
Denis.
Oui, justement, je crois qu'on peut être au moins d'accord là-dessus, c'est sur le problème de la conscience. C'est-à-dire que si l'homme a la conscience, l'animal aussi, et je dirais même la plante, etc. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple des plantes, je connais l'expérience par exemple des acacias qui sont capables d'émettre à distance des émissions chimiques pour que justement elles puissent se défendre, etc., contre les prédateurs, les girafes en général, etc. Bon, ce qui veut dire que justement, suivant l'espèce et suivant le développement, bah, chacun aura une conscience qui correspond à son développement, tout simplement. Hein. L'homme, bon, étant le plus développé, aura une conscience plus élargie. Il y en a qui seront quasiment au niveau de l'animal tel quel, je veux dire. Hein. Ça, c'est aussi vrai par ailleurs. Hein. Le comportement, des fois, de certains humains, ils sont strictement le même que celui de certains animaux. Donc en fait, justement, ce qui est important pour nous, c'est savoir comment développer cette conscience et comment réaliser l'être humain pour que justement cette conscience s'ouvre, pas seulement à nous-mêmes, mais aux autres. Et quand on essaye justement de propager l'idée du végétarisme ou autre, ben c'est justement c'est essayer de développer cette conscience chez l'autre pour que justement il se l'approprie. Et bon, l'exemple de la corrida ou de justement de gens qui, je dirais spontanément, parce qu'ils ont des schémas justement tout faits qu'on leur a inculqués pendant des générations et des générations, vont reproduire des comportements, je dirais, schématiques, stéréotypés, alors que si justement on arrive à leur faire à introduire justement cet élément de conscience, par exemple la souffrance de l'animal, là effectivement on arrive à progresser beaucoup plus.
Sébastien.
Je voulais revenir sur les sortes de besoins et tout ça. C'est que je pense que le désir est un moyen de combler le besoin d'un organisme. Il y a plein de besoins dans un organisme dont on n'a pas, qui nous passent inaperçus à notre connaissance propre. C'est-à-dire si quand je mange du sucre, il y a une sécrétion d'insuline, des choses comme ça, c'est un besoin. Il y a eu à un moment donné cette insuline, parce que c'est l'insuline qu'on appelle. Et l'organisme a fait ça tout seul, sans que moi j'ai eu besoin. Que j'ai eu un désir de sécréter l'insuline, parce que ça s'est fait tout seul. Mais il y a d'autres besoins qui ont utilisé au cours de l'évolution, il y a des choses qui ont utilisé justement cette notion de désir et de souffrance pour combler d'autres types de besoins. C'est-à-dire si à un moment donné il y a un déséquilibre dans mon corps, il y a une sensation de faim, la sensation de faim, je crois qu'elle doit venir d'un déséquilibre chimique à l'intérieur du corps, des choses comme ça. Et cette sensation, pour combler ce besoin, eh ben, il y a eu quelque chose qui a un outil, un moyen de combler ce besoin qui a été de passer par la création d'un désir, d'avoir justement une finalité sur mon comportement, et d'avoir envie de manger et de trouver plaisir à manger. Donc d'arriver à ce besoin-là qui était de mon corps d'avoir des nutriments. Je suis passé par ce moyen-là qui était celui du désir de manger pour le satisfaire. Je pense qu'effectivement, il y a son besoin et désir, il y a certains besoins qui sont comblés complètement en dehors de la connaissance propre que j'ai, même si c'est de mon organisme qui le réalise. et d'autres qui sont enfin, c'est voir le plaisir ou la souffrance et le désir comme, comme un moyen qui à un moment donné est apparu dans l'évolution pour créer, pour survenir à des besoins et qui à un moment donné ont été un comportement qui est apparu et qui a été un peu un succès puisque aujourd'hui beaucoup d'individus l'ont et ça fonctionne assez bien parce que ça permet de s'adapter à, et de mettre en œuvre des comportements qui sont complexes. Enfin, les comportements de l'organisme aussi peuvent être complexes, mais c'est un autre moyen aussi qui a été. Donc, je pense besoin et désir, même si c'est pas, on ne peut pas les calquer, le désir est quand même vachement relié à cette notion de besoin, mais c'est un moyen qui est, qui est là pour.
Ça
va vite. Oui, c'est par rapport à ce que, par rapport à ces histoires d'acacia qui prouveraient que les plantes sont sensibles ou que les plantes ont conscience ou que les plantes cherchent à se défendre. Ou, c'est un truc que j'ai souvent entendu et je l'ai souvent entendu dans des trucs, enfin lu dans des trucs, y compris des trucs qui se veulent scientifiques, enfin écrits par des gens qui sont des scientifiques. Mais je pense pas que les scientifiques soient au-dessus d'absorber l'idéologie commune de tout le monde et que les scientifiques sont très pétris de naturalisme, justement. Quand on se met à dire que ça prouve que les acacias sont sensibles, toi, Denis, tu as dit qu'elles sont capables d'émettre des substances pour qu'elles puissent se défendre. Est-ce que pour toi, c'est une constatation, ça ?
Une constatation.
Neutre. Bon. Capable, il me semble que capable, ça veut dire qu'on est capable de quelque chose qu'on voudrait faire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que la pierre est capable. Ça signifie qu'il y a une volonté.
Oui, il y a une volonté. Ben, si elles émettent ça, c'est parce qu'elles ont la volonté de protéger les œufs d'acacia.
Et si les pierres tombent, elles ont la volonté de tomber ?
Ça dépend, justement, en général, du autre ordre.
Non, mais je veux dire, que si, est-ce que tout phénomène qui se passe correspond forcément à une volonté ?
À partir du moment où tu reconnais que l'univers, c'est un organisme vivant, l'organisme qui fait partie de cet univers devient un organisme.
Ça se place dans une conception que tu as particulière de l'univers. Simplement, je voudrais que tu reconnaisses que pour des gens qui ne partagent pas cette conception de l'univers, ce n'est pas simplement un constat de dire que les plantes sont capables d'émettre des substances pour qu'elles puissent se défendre. Tu dis pour qu'elles puissent se défendre, c'est-à-dire qu'elles ont ce but. Tu ne peux pas dire que ce but, tu le constates. Tu constates seulement que les plantes émettent des substances, point. Une pierre, elle tombe, elle fait un petit trou dans le sable. Tu peux pas dire que la pierre tombe pour faire le trou dans le sable. Il suffit pas de constater ce qui se passe et de voir l'effet de ce qui se passe pour dire que ce qui s'est passé a été fait dans le but de faire cet effet. La pierre ne tombe pas pour créer un trou.
Ces substances provoquent... l'accroissement des piquants, etc.
Oui, mais il peut y avoir d'autres explications.
Oui, par exemple.
Mais la pierre, elle a pas une volonté de tomber. C'est quelque chose d'autre qui l'a fait tomber. C'est parce qu'il y en a du monde, quelque chose, elle ne tombe pas d'elle-même.
Et elle tombe d'elle-même aussi, on peut dire qu'elle tombe d'elle-même, ou que la pierre, ou que l'eau qui... je veux dire, il y a 50 000 phénomènes qui se passent, par la chose elle-même. On peut dire que l'acacia n'aimait pas cette substance d'elle-même non plus, parce que c'est la girafe qui lui fait émettre.
La pierre, elle ne tombe pas d'elle-même.
Mais,
je ne dis pas que l'acacia, je vous dis sur l'acacia, mais la pierre...
Ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de l'acacia, on constate une séquence d'événements, tout tu dis, ça prouve une volonté. Tu es d'accord pour et tu dis, il n'y a pas d'autres explications. Bon, je veux dire, moi, je comprends pas qu'aujourd'hui tu lises des livres de David Bohm et que tu ne sois pas au courant de l'explication darwinienne des choses, que tu l'acceptes ou que tu la refutes. Mais je veux dire, l'explication darwinienne des choses, et je veux dire que dans le cas de l'acacia, je pense qu'elle est extrêmement facile. Je veux dire, il n'y a pas, dans d'autres cas, de l'apparition de l'œil ou je sais pas quoi, c'est peut-être plus compliqué. Dans le cas de l'acacia, c'est pas compliqué. On peut très bien imaginer que des acacias, une fois que quand il y a des girafes qui bouffent les acacias, et ben ça fait un truc des cellules qui sont coupées, il y a certaines substances de la cellule qui se retrouvent à l'air libre, puis d'autres acacias. Parmi ces autres acacias, ceux qui avaient une certaine réaction à ces substances, et ben survivaient, celles qui n'avaient pas ceux qui n'avaient pas de réaction ne survivaient pas. Non, c'est pas pareil, je suis désolé, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'explication darwinienne, c'est une explication par l'apparition, par le hasard, l'apparition aléatoire de mutations. Les mutations aléatoires, c'est quelque chose qui est connu par la science. C'est-à-dire, c'est pas. Si tu as l'explication avec l'univers, le grand tout, une volonté de l'univers, il faut aussi qu'elle intègre les explications qu'on connaît de la science d'aujourd'hui. Les mutations aléatoires sont connues de la science. Les acacias qui peuvent réagir suivant leur constitution génétique d'une façon ou plutôt d'une autre, c'est des faits de la science. C'est-à-dire, si tu t'informes de ça, tu peux voir qu'il y a au moins d'autres candidats d'explication au fait que les acacias, qu'il y ait cette émission de certaines substances par certains acacias, et que d'autres acacias réagissent à cette émission de substances, et que ces explications-là sont des explications sans aucune finalité. Le darwinisme prétend expliquer le monde sans aucune finalité et a au moins une certaine vraisemblance. Et tu ne peux pas affirmer de but en blanc, et là je trouve que ça manque d'ouverture aux réalités du monde. Tu peux dire, moi je pense que ça correspond à l'univers qui est quelque chose de vivant et qui a une finalité en soi. Tu peux dire ça, que toi tu le penses. Tu ne peux pas affirmer, et tu es en bonne compagnie si tu l'affirmes, puisque je te dis qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'amusent à l'affirmer. Ah oui, ça prouve la communication chez les plantes, que les plantes veulent se défendre, etc. Et qui utilisent ce même langage que toi. Mais je pense que ce n'est pas un langage légitime dans l'état où des sciences d'aujourd'hui, et que tu dois au moins reconnaître qu'il y a d'autres explications, et que ta vision du monde n'est pas prouvée par la simple constatation qu'il y a certains acacias qui deviennent amers, quand il y en a d'autres qui émettent des substances.
Ouais. Denis. Bon, on en revient toujours au problème de la conscience, c'est-à-dire que bon, l'exemple de l'acacia, c'est boutade. Hein. Ceci dit, ça ne change rien au fond que les plantes, effectivement, ont une certaine conscience. Que ce soit une conscience complètement embryonnaire ou pas, peu importe.
Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que tu penses que c'est prouvé?
Mais, c'est pas le problème de prouver ou pas le prouver.
Moi, je ne crois pas.
À partir du moment où je te dis l'univers, pour moi, c'est un organisme vivant, tous les éléments qui composent cet univers vont être vivants à un niveau différent, justement, suivant, je te l'ai dit, suivant l'évolution. Alors, le fait que tu me parles de trucs, par exemple, d'évolution aléatoire, ça change strictement rien. Du reste, là aussi, il y a des tas de théories scientifiques par rapport à ce que c'est, des soi-disant mutations, etc. On ne va pas entrer là-dedans, ça deviendrait un dialogue totalement fou et qui apporterait rien à personne. Le problème, c'est savoir si on accepte ou pas, et ça, je suis d'accord que c'est une conviction intime, que l'organisme, l'univers, par exemple, est vivant, ou est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce qu'il est simplement réjoui par des lois naturelles qui viennent d'on ne sait pas où, mais peu importe, du moment qu'elles existent?
Est-ce que tu es capable de lutter avec des gens qui n'acceptent pas ça? Moi, je ne l'accepte pas, je veux dire.
Non, mais moi, personnellement, j'ai aucun, a priori, contre le fait que les autres n'acceptent pas ce que je peux penser. Je veux dire, moi, c'est ma pensée. Mon voisin, il a pas la même pensée que moi, même s'il peut avoir des pensées communes, etc. Ma voisine, pareil. Et toi, pareil. Je veux dire, c'est pas parce que, aussi, mettons, sur ces trucs-là, je suis pas d'accord, que pour sur d'autres choses, je ne vais pas être d'accord avec toi, etc. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve, c'est justement, là, on en revient au libre-arbitre, justement, de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'intime conviction de l'homme de savoir c'est ce qu'il doit rechercher lui-même et comment le chercher. Voilà. Et l'animal, pour moi, effectivement, il recherche la même chose à un niveau peut-être moins développé, mais il fait la même chose. Parce que justement, si tu parles de darwinisme, ça correspond tout à fait à l'évolution.
Il y a peut-être pas.
peut arrêter.